C'est l'équipe du soir, bonsoir. Une information exclusive dans l'équipe du soir sur Karim Benzema. Une information de Virginie Saint-Cylie vous en parle dans quelques minutes. Dans quelques secondes. Tout de suite, présentation du plateau. C'est un nouveau président ce soir. C'est le voice, la voix de l'équipe du soir. Président Verdier. Bonsoir.
Bonsoir, je suis vraiment très honoré, et surtout avec un tel aréopage de journaliste chevronné.
D'accord, très bien. Rappelons, vous avez un carton rouge pour les gens qui ricanent. Hein, vous savez qu'il y a des airs, avoir deux airs, est-ce qu'il a le niveau, machin, tout ça. Voilà.
Merci.
Mes amis, je vous présente, cher président, votre ville-peuple. Il y a Régis Testelin dans la place, notre Richard G.
Bonsoir Mémé, bonsoir Fred.
Bonsoir Régis.
Vous n'avez pas Fred, pas président.
Je ne donnerai pas de carton pour ce genre de privauté.
Ah, c'est déjà son
émission. C'est bien produit.
Hein. Et on y va.
Envoyez le bien, les gars, bien. Allez, vas-y, on va la sauce.
Étienne Moiti, le chroniqueur préféré de la régie. Face à vous, le petit breton est dans la place. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Salut Mémé, salut président.
Ça va?
Tout va bien, comme Pierre Lesmilou qui a été élu joueur de Ligue 1 du mois de février, la fusée est lancée.
Ouais, c'est vrai.
On en parle dans le menu info, chute.
Ouais, ok. Tiens, on vient de faire une Guillaume Dufy. On a parlé alors qu'elle n'était pas encore présentée. Bizarre, mais c'est pas Guillaume Dufy. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, vous allez bien?
Oui, très bien, et vous?
Ouais, super bien. Super plateau.
Super plateau?
Ouais, que des mecs cool qui connaissent le sport.
Et c'est pas toujours le cas alors.
Vos flics maintenant sont devenus.
Si.
Ah, la tête.
Non, c'est une grimace que je n'y connaissais pas celle-là.
Le sport.
Omnisport. Le sondage du soir. Benzema au JO, ça vous plairait? Je passe tout de suite la main à ma consoeur Virginie Saint-Cylie. Expliquez-nous, Virginie.
Alors, à titre personnel, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir représenter la France au JO. C'est le dernier Ballon d'Or français. Il est toujours en activité. Donc, je lui ai posé la question tout simplement, parce qu'on échange de temps en temps. Je lui ai demandé si l'idée d'y participer lui plairait. Et il m'a répondu, pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top. En précisant évidemment que la décision ne lui revenait pas. On le sait très bien, c'est le sélectionneur Thierry Henry qui décide. Mais en tout cas, voilà, lui, il est ouvert à l'idée. Et c'est visiblement quelque chose qui lui plairait.
Ah, il ouvre la porte à une éventuelle sélection. On en parle, mais ça dans quelques minutes. Filons en direction la une de l'équipe du jour avec VAR, le grand bazar, dossier dans l'équipe du jour qui concerne l'arbitrage. Il faut tout revoir, c'est le slogan qui s'affiche à la une de l'équipe. Le dossier est passionnant car on plonge au cœur de l'arbitrage et de ses multiples dysfonctionnements. Une crise, on va dire, pour résumer, à deux étages. La première est politique. Qui contrôle l'arbitre? La Fédération française ou la Ligue de football professionnel? La seconde est sur le terrain. Qui contrôle la décision? Est-ce que c'est l'arbitre de champ ou l'arbitre de la VAR? Ça, la question sera posée. L'arbitrage en crise, le problème est-il avant tout politique ou avant tout sur le terrain? À cette question, on n'a pas les arbitres, mais on a des journalistes. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Politique. Avant tout, aux politiques, Régis et Nicolas. Qui commence chez les Testelin Georgerot?
Tu veux que je commence? Allez.
Tu veux?
Ouais,
bon,
allez.
Bah vas-y. Nicolas, vous sur le terrain. Moiti Dufy, qui commence? Est-ce Étienne ou Guillaume?
Ah, moi je veux bien dépoussiérer.
Débroussailler.
Ouais, débroussailler.
Débroussailler, vous dites.
Et puis là, il y a l'expert, le docteur S. Var. Il va clore.
D'accord, ok, très bien. Donc, politique, tout d'abord, Nicolas Georgerot. On vous écoute. Pourquoi avant tout, c'est le problème? Le problème est politique.
Eh ben, c'est politique parce que s'il y a bien une famille du foot, pour reprendre cette terminologie qui n'en est pas une, c'est bien cette corporation des arbitres. Ça fait un quart de siècle que c'est le bazar, qu'on n'arrive pas à mettre une direction claire. Et donc, par ruissellement, d'avoir aussi des consignes claires et d'avoir un climat serein. C'est un fait, et on ne va pas convoquer la mémoire d'Étienne, mais c'est très bien qu'au début des années 2000, il y avait encore déjà des histoires de clans avec Motro, notamment, et que donc c'est le problème principal, et que s'il n'y a pas cette clarté et cette sérénité, c'est compliqué.
Ok. Guillaume Dufy, pour vous,
si
c'est le terrain.
On passionne et on ne s'intéresse pas à ce sujet, c'est pas parce qu'en politique ça se déchire ou en
Napoli, ça se déchire parce que tous les week-ends, il y a des problèmes et parce que les supporters râlent, les joueurs râlent. Et quand on fait des débats, on ne fait pas des débats entre Lannoy, Bata, pour qui vote un tel. On s'intéresse à ça parce qu'il y a des problèmes sur le terrain. Et c'est un problème qui n'est pas uniquement national, c'est un problème international. Et donc, on ne sait pas si en Angleterre, en Italie, en Espagne, il y a des problèmes politiques. Donc, c'est uniquement sportif.
Et sur le terrain. Régis Testelin, vous revenez sur le terrain de la politique. Pourquoi ?
Oui, parce que Nicolas a parlé d'un problème politique au sens large. J'ai envie de le resserrer. Et personnellement, je considère que les erreurs majeures qui ont été faites ces derniers temps sont des erreurs politiques. Je parle par exemple du match Lyon-Nice. Il y a des erreurs manifestes qui ne sont pas suggérées par l'arbitre du VAR à l'arbitre de terrain qui est M. Turpin, parce qu'il ne faut pas désavouer M. Turpin, parce qu'il ne faut pas donner des points en moins à M. Turpin, parce qu'il ne faut pas rétrograder M. Turpin dans la hiérarchie des arbitres, et que ça, c'est de la politique.
Merci. Étienne Moati, 31 secondes et 9 dixièmes. À vous de jouer.
Moi, je veux bien qu'on dise toujours que c'est la faute des autres. Évidemment, c'est pas parce que nos arbitres sont pas bons. C'est parce qu'il y a des luttes intestines dans l'arbitrage. Mais comme l'a dit, et je suis étonné qu'ils prennent cet argument-là, Monsieur Georges Rau, c'est que ça fait des années qu'il y a des problèmes dans l'arbitrage au niveau politique. Et en fait, il y a toujours eu surtout des problèmes dans l'arbitrage au niveau du terrain parce que les arbitres sont pas bons. C'est pas parce que votre rédacteur en chef n'est pas bon que vous êtes obligé d'écrire un mauvais papier. Ben non, même ça arrive à certains parfois. Mais bon, on va pas dire qui. Mais forcément, je veux dire, c'est responsable de ce que vous faites.
Guillaume Dufy, qui a la langue bien pendue ce soir, donnera les noms dans quelques minutes, mes amis. Non, ils ne sont pas là.
Pas les absents.
La chaîne L'Équipe ou le site L'Équipe va rugir de plaisir. C'est un problème politique, cette crise de l'arbitrage. Si c'est politique, c'est Régis et Nicolas. Si c'est sur le terrain, c'est le niveau des arbitres, c'est Étienne et c'est Guillaume. Président, c'est votre tournée, votre première tournée. Vous êtes écouté pour votre premier arbitrage.
Je suis très frappé, moi, souvent, par cette ambition qu'ont pas mal d'arbitres, ces luttes même claniques. Je trouve que ça change pas beaucoup. Effectivement, ça fait pas mal d'années que c'est comme ça. Mais le fait qu'il y ait une telle explosion des pouvoirs, avec le rôle aussi d'Éric Borghini, le rôle de bon, la bisbille Lannoy avec Gauthier, c'est pour ça que je pencherais plutôt du côté de la politique, parce que quand ça passait avec Lannoy et Gauthier, c'est-à-dire jusqu'à fin novembre, pas mal d'arbitres en anonyme ou même à découvert qui me l'ont dit, ont l'air de dire que là, il y avait à peu près une cohérence et ils savaient à peu près où ils allaient. Pour le reste, c'est vrai que je suis toujours absolument estomaqué par l'ambition qu'ils ont, le teston qu'ont certains arbitres aussi. On a l'impression qu'on ne peut absolument pas en parler, on ne peut pas même discuter avec eux, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas communiquer avec eux. Et ça se ressent aussi sur le rapport qu'ils ont aux autres et à leurs congénères.
Et donc en fait, quand il y a un arbitre qui prend une mauvaise décision sur le terrain, quand il y a un arbitre VAR qui n'envoie pas les bonnes images, quand il y a une décision qui n'est pas corrigée alors qu'elle devrait être, c'est parce qu'en fait, Lannoy et Gauthier ne s'entendent pas.
Bah, ou Gary Lyon ne s'entendent
pas. C'est pas seulement ça. C'est tellement franco-français.
Les erreurs du VAR ne sont pas apparues.
Non, j'ai l'impression que vous donnez un point, donc... Régis,
c'est pas une impression, vous avez bien entendu.
Oui, parce que c'est tellement, je trouve, exacerbé en France par rapport au système qui peut être, par exemple, en Allemagne, c'est quand même anormal qu'il y ait à ce point-là des histoires de personnes en permanence.
Klopp a mangé sa casquette il n'y a pas si longtemps parce qu'il était halluciné par le niveau de l'arbitrage anglais. Même chose en Espagne, en Italie. Et Gauthier et... Lannoy ne sont pas non plus à la tête de l'arbitrage italien, espagnol, anglais ou allemand. Il y a des problèmes de VAR partout.
J'aimerais convoquer Étienne Moati. Ensemble, nous allons relire l'une de vos œuvres. C'était en février dernier. Encore un coup signé Étienne Moati. Vous aviez contacté un arbitre professionnel français qui témoignait sous couvert d'anonymat. Voilà ce qu'il nous racontait. L'arbitrage français est un bateau ivre sans capitaine. Ni ligne directrice, mais il nous reste un petit peu moins de 3 mois pour ne pas fausser le championnat. Ce n'est pas ça. Merci les copains de me mettre évidemment dans
c'est
le mur.
Quand même, hein.
Vous confessiez et vous aviez réussi à avoir
des confessions.
Par exemple,
les mecs à l'émission qui ratent le lancement, c'est pas parce que le chef de la chaîne L'Équipe est pas bon.
Non.
C'est parce qu'ils se sont plantés. Quoi.
Si les arbitres font des conneries qu'ils font, c'est notamment parce que c'est hallucinant ce que l'on entend en stage. Notre quotidien, ce sont des débriefings qui sont en fait fonction du nom de l'arbitre. Tournons la page. Des arbitres plus ou moins protégés, des situations. On nous dit que l'on peut tricher plus ou moins avec le VAR pour protéger l'addition du collègue, notamment sur leur jeu. Aujourd'hui, on ne sait plus comment arbitrer. Là, il y a, on va dire, un peu trop de politique qui arrive sur le terrain.
Alors, oui, donc ça fragilise. Oui, mais là, ça fragilise l'arbitre. Qui témoigne, c'est un arbitre qui témoigne. Donc, yes. Lui, est-ce que lui, il se dédouane pas un petit peu donc des mauvaises décisions qui sont prises par le corps arbitral sur le terrain en invoquant donc le monde politique de l'arbitrage qui les gênerait évidemment. Que c'est mieux d'avoir des dirigeants qui sont bien structurés et qui s'entendent un tout petit peu entre eux. Mais Nicolas, on a parlé. Moi, l'arbitrage français. Il fonctionne pas bien depuis la nuit des temps, quels que soient les dirigeants. Et il y avait ni Lannoy, ni Gauthier,
VAR ou pas VAR.
Mais je veux dire qu'il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. Et j'ai le sentiment que les arbitres français, Fred a commencé à le dire, ils se remettent assez peu en cause eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont en effet parfois un petit peu le teston, à qui il est difficile de parler, qui se remettent assez peu en question, et peut-être que ça aussi, c'est pas forcément toujours le problème de leur dirigeant.
Les chroniqueurs qui pensent que c'est politique, je les convoque avec un exemple à la clé. Vous voulez répondre à Ancien Boîte?
Non, je vous vois venir, mais la question c'était avant tout politique ou sur le terrain?
Avant tout.
Mais moi je dis avant tout politique, mais je suis d'accord avec mes amis pour dire que c'est le terrain. Je vais dire que c'est du 60-40 en ce qui me concerne.
Ouais, bah, voilà.
Mais les problèmes de terrain, ils sont criants. Et le premier problème de terrain. Pour ma part, je trouve qu'on a complètement dénaturé l'utilisation du VAR. Au début, ça devait être pour les cartons rouges, pour les hors-jeux et pour les pénaltys. D'accord ? Aujourd'hui, le VAR arbitre toutes les scènes du match bien au-delà de ces trois cas particuliers. Donc ça, c'est pas de la politique, c'est du terrain. Mmh. Et en plus de ça, il y a de la politique.
Je voulais quand même vous convoquer, mon cher Régis. Allez-y. Avec Frédéric et avec Nicolas. On va revoir une action litigieuse lors du match OM-Nantes remporté par l'OM quand, en première période, François Le Texier décide de ne pas siffler pénalty sur cette faute de Mbemba sur Simon. Mmh. Le problème, c'est quoi? C'est Jérôme Brizard, l'arbitre du VAR, là, qui est dans le camion, qui ne prévient pas que l'arbitre de champ a commis une erreur manifeste. Donc, où est la lutte politique de conflit de pouvoir entre la Fédé et la Ligue? Mes petits, je vous convoque pour avoir quelques
questions. Actuellement, on voit bien que là, et si on a ce débat-là ce soir, comme on a déjà mis en exergue effectivement quelques erreurs d'arbitrage en Ligue 1 ces dernières semaines.
Quelques dizaines.
C'est simplement dégradation vis-à-vis du bazar qu'il y a à la tête de l'arbitrage. On n'a pas commencé la saison, Étienne, en disant que les arbitres étaient des truffes. Au printemps dernier, on a même fait des sujets, il y a même eu des papiers il y a encore quelques mois, pour dire que finalement, sur le VAR, bah, c'était pas un outil si mal que ça, et que on n'était pas dans ce
débat. Il est pas mal cet outil, il faut savoir l'utiliser.
C'est sûr qu'il est bien cet outil. Mais à ta question, Mémé, est-ce que Brizard est un tocard de ne pas avoir vu cette faute? Ou est-ce que c'est un lâche, entre guillemets, évidemment.
Tout cœur, c'est un peu faux.
Mais c'est pas possible que M. Brizard n'ait pas vu faute.
Bah, comme là.
On est 200 000 à l'avoir vu, cette faute. Lui, il est arbitre, c'est son boulot. Bien sûr qu'il l'a vu. Après, au moment d'appuyer sur le truc et de lui dire viens voir, il y a pénalty, il le fait pas. Non? Bah, je sais pas. Vous pensez qu'il est incompétent et qu'il a rien vu, vous? Ou qu'il est compétent et qu'il le dit pas?
Oui, mais. Une compétence, elle doit s'exercer en temps réel. C'est bien beau d'avoir une compétence. Il faut juste être capable de le faire quand l'action se présente et de prendre la bonne décision et de ne pas se dire une demi-heure après en rentrant chez soi. Ah, c'est vrai quand même.
Là, et de résister à la pression et aux pressions.
J'avais tort, exactement. Donc moi, j'ai le sentiment que, évidemment, tout ce qui se passe autour de l'arbitrage n'est pas très bien. Mais que les arbitres sur le terrain, quand ils ont des gens avec qui ils s'entraînent toute l'année... Et ben, et parce que c'est ça comme ça que ça se passe avec les gens qui sont dans le VAR, ben, ils devraient mieux s'en sortir.
Non mais parce que
et quand il n'y a pas des images qui sont envoyées, alors on peut considérer une fois, c'est peut-être parce que Turpin, etc., comme l'a expliqué Régis, mais enfin, il n'y a pas que les matchs de Turpin sur lesquels les images, elles ne sont pas envoyées quand elles devraient l'être ou quand elles sont envoyées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc, le problème, il est sur le terrain.
Et Gauthier, ce matin, dans ton interview, sur ce sujet-là, botte...
Anthony Gauthier, botte
en touche.
Voilà, une tape sur l'épaule au patron
de l'arbitrage.
Étienne, justement, vous avez interviewé le patron de l'arbitrage, c'était à découvrir ce matin dans le journal L'Équipe. Cette interview est toujours consultable sur le site. Alors, vous avez confié des choses, il avait fixé quatre grandes orientations aux arbitres de notre championnat. Et ce qui est intéressant, je vais reprendre les quatre orientations et à chaque fois, en creux, ça décrit quelque chose. C'est les quatre grandes orientations, c'est peut-être des corrections. La première, c'est priorité absolue à prendre vos responsabilités. C'est un message qu'il envoie à ses arbitres sans attendre l'assistance vidéo. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, on s'y flotte en attendant la VAR? Enfin, voilà ce que. Il faut toujours comprendre le message caché, en fait.
Ça veut dire ça, mais là, il n'y a jamais eu aucune consigne qui a été donnée de dire écoutez, les gars, prenez juste aucun risque, ne prenez pas de décision, puis on verra comment ça se passera avec le VAR. Non. Je veux dire, c'est parce que psychologiquement, les arbitres ne prennent pas leurs responsabilités et se laissent déresponsabiliser par le VAR. C'est un problème en France, ça existe aussi ailleurs.
Donc il y a une concurrence entre l'arbitre du VAR et l'arbitre de champ.
C'est humain, Étienne. Mais c'est humain. Et je parle sous le contrôle de Fred, qui est un grand tennisman. Mais depuis qu'il y a le hokkaï dans le tennis, plus aucun arbitre de tennis ne prend de décision. Ils sont complètement déresponsabilisés puisqu'ils savent que de toute façon, la machine va leur donner la vérité.
Bah, on entend bien faute quand même.
Oui, on entend bien faute. Et puis surtout, à cette énorme, différence, c'est que c'est binaire. Si. Le tennis, c'est binaire. La balle est faute, la balle est bonne. Ouais. Tu vois. Donc, effectivement,
il n'y a pas d'interprétation.
Voilà. Ça ne laisse pas de place au doute, finalement. Même si, en fait, sur le hokkaï, il y a une marge d'erreur. On ne le dit jamais, mais il y a environ 2-3% de marge d'erreur. Ça, on a fait une croix dessus, très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quasiment tout le temps, hormis quelques cas, qui sont des cas de, disons, humains, de règlement, de psychologie, de points de règlement qu'il faut expliquer aux joueurs, mais en tennis, 90% du boulot, c'est la balle est faute, elle n'est pas faute. Et maintenant, avec le hokkaï systématisé, même sur certains tournois, il n'y a même plus de juge de ligne, eh ben, c'est 100% électronique.
Donc, ce n'était pas une très bonne comparaison.
Non, c'est binaire. Donc, voilà. Mais là où tu as raison, effectivement, c'est que les arbitres de tennis ont tendance à se cacher.
Ben oui.
Et moi, le parallèle que je fais.
C'est humain.
Parce que j'ai la chance aussi de regarder, je me regarde un match de Ligue 2 par semaine, par week-end. Et là,
c'est quand tu as pas le message de week-end. Ça.
Voilà, il n'y a pas la VAR. Et je peux vous dire que je suis très, très impressionné par la différence d'activité
de
l'arbitre central et de ses assistants. C'est pas du tout le même match en termes d'activité
et
de décision.
Tu arrêteras de te régaler la saison prochaine
par rapport
à la VAR en Ligue 2.
Oui, absolument. C'est
donc
prévu.
Tu regarderas un match national l'an prochain.
Deuxième.
Non, mais... Ah bah
juste,
oui,
bien sûr. Est-ce que je peux
sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur Marseille. C'est le texte.
Oui, François Le Texier.
C'est la nouvelle pépite de l'arbitrage français, visiblement. C'est le numéro un des arbitres français.
Voilà. Sur l'action du pénalty qu'il ne siffle pas. Il est hyper bien placé. Il est à 4 mètres de l'action. Il voit, il n'est pas... sa vision n'est pas obstruée par des jambes, des bras, des têtes.
Pas sûr.
Pourquoi il ne siffle pas? J'aimerais peut-être qu'à la fin de sa carrière, il le dira, parce qu'il peut ne...
Mais parce qu'il a peur de se tromper.
Eh ben, siffle, et puis après,
ne pas être bon ce soir-là.
Et siffle, penalty, et puis en haut, il y a un de tes potes qui va te dire, voir, parce que c'est pas sûr.
Et bah, tu vas être déjugé.
Mais c'est pas grave, ça. Mais par exemple, au rugby, l'arbitre est parfois déjugé, il prend une décision, mais il dit, bon, j'ai sifflé, mais je suis peut-être pas sûr. Tu peux me dire? Mais ça passe bien. Pourquoi ça passerait pas au foot? Pourquoi ça passerait pas au foot? J'arrive pas à comprendre.
Étienne, quatre grandes orientations livrées par le patron de l'arbitrage français aujourd'hui. On a vu la première, la deuxième et la suivante. Accompagner le déroulement de la rencontre en favorisant le jeu et le spectacle avec ouverture et disponibilité auprès des acteurs. Ce qui signifie que les arbitres ont, je cite le président, le teston et sont complètement fermés aux acteurs, c'est ça? Il y a une attitude.
C'est le côté généralisation. Il ne faut pas généraliser sur le thème les arbitres ont le teston parce que ça serait évidemment une erreur.
Okay.
Il y a énormément d'arbitres. Non, mais c'est vrai. Il y a énormément d'arbitres qui sont d'abord. Ils sont vraiment tous, enfin, pour parler quand même avec beaucoup d'arbitres.
Certains le sont, d'autres pourront pas le
dire. Oui, non, mais en tout cas, intellectuellement, tout à fait honnête, ils sont aussi passionnés. Il n'y a aucun qui va régler des comptes, qui va dire, tiens, j'aime pas ce club-là, j'aime pas ce joueur-là, je vais me le payer. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Mais effectivement, il y en a certains avec qui c'est impossible de discuter. Et il y en a certains qui, effectivement, se
président,
prennent
vous êtes en train de s'aborder mon rendez-vous avec mon agent, Étienne Moati. Accompagner le déroulement de la rencontre en favorisant le jeu, le spectacle, avec ouverture en disponibilité auprès des acteurs, ça veut dire quoi? Ils sont trop fermés? C'est l'attitude,
Quelque chose qui avait été décidé, qui était demandé un petit peu par le secteur professionnel. C'est-à-dire qu'on considérait que l'arbitrage français hachait trop le jeu, qu'il fallait laisser jouer une liberté. Donc, en fait, c'est revenir à ce qui avait été décidé initialement.
Restez
restez ferme, c'est la quatrième orientation. Restez ferme sur les incontournables, faute grossière, mise en danger d'un adversaire, anéantissement d'une action de but. Pourquoi cette précision? Il y a eu des oublis, des choses comme ça.
À partir du moment où vous dites il faut laisser jouer, favoriser donc la continuité, etc. Et à un moment donné, il faut quand même rappeler que si jamais il y a un mec qui découpe l'autre en deux, il faut quand même siffler. Quoi.
Ah, et c'est la grande nouveauté, la quatrième orientation, le recours à l'assistance vidéo à des fins managériales dans des moments particuliers. Donc c'est aller voir l'écran, la télé du VAR, même si on est sûr de sa décision. Ma question, c'est est-ce que c'est de bon sens ou une mise en scène, on va dire, un artifice un peu?
C'est dur à ce stade de se déterminer parce que moi, je trouve ça quand même relativement curieux. Donc l'idée, parce que je ne sais pas si vous l'avez bien expliqué, si on la comprend bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait, par exemple, un carton rouge qui serait donné en tout début de match, il peut dénaturer le match, même si l'arbitre est sûr, en fait, qu'il fait un peu de cinéma, il va voir l'écran de manière à ce que le public, le téléspectateur aussi, se dise « bon, il a bien vérifié, donc c'est normal ». Ou en toute fin de match, il y a un pénalty dans les arrêts de jeu, même s'il est sûr à 100%, il va quand même voir pour que les gens se calment et qu'il y ait moins de polémiques. Mais d'un autre côté, ça continue un petit peu à déresponsabiliser l'arbitre. C'est-à-dire que si on commence à considérer qu'il ne peut pas être sûr à 100% et prendre la décision sans aller regarder l'écran, ça peut être gênant aussi.
Et surtout, on sort du cadre de l'erreur manifeste qui est suggérée par le VAR, en l'occurrence.
Absolument. Mais là, pour le coup, ce serait une espèce de mise en scène, juste pour rassurer tout le monde. Mais vu qu'il a pris la bonne décision, il en est persuadé, il ne va évidemment pas changer d'avis.
Mais à travers ce débat, ce fait d'actualité, ce dossier, est-ce qu'on peut dire aussi que certains arbitres n'aiment pas le VAR, sont anti-VAR? En fait, l'arrivée du VAR qui déboule il y a 2-3 saisons, finalement, il y a des arbitres qui disent ça m'emmerde.
Il vaut mieux qu'il change de métier celui qui pense qu'on va revenir en arrière et arrêter le VAR, vu qu'ils sont aujourd'hui relativement bien payés pour faire ça.
Il y a 3 ans, tout le monde le voulait.
Ils vont rester.
Il y a une lutte de pouvoir incroyable dans le monde de l'arbitrage français.
Attention, vous êtes sur la politique. L'argument des petits.
Il y a une concurrence terrible entre les arbitres. Il y a des courants de pensée. Est-ce qu'il ne serait pas possible que la personne qui soit à la vidéo ne soit plus un arbitre en activité ou quelqu'un d'autre? Un spécialiste de l'arbitrage, un délégué?
Il est sans voix, Étienne Moati et Guillaume Dufy. Vous êtes fait couper la chic, c'est normal, vous venez de découvrir le résultat. C'est la politique qui l'emporte le problème, qui est avant tout politique ou avant tout sur le terrain.
On verra au prochain match si c'est la politique.
C'est la politique qui s'impose. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Indiscrétion, l'équipe du soir. Nous avons tenté les Thierry Henry qui galère à convoquer des joueurs de plus de 23 ans pour les JO de Paris. Une proposition, Karim Benzema au JO. On a contacté Karim Benzema. C'est Virginie Saint-Cilly. La réponse, c'est pourquoi pas, ça pourrait être top. On en dit un peu plus juste après la pause. Allez, à tout de suite. L'information exclusive de l'équipe du soir sur Karim Benzema, une information de Virginie Saint-Cilly. Face aux difficultés de Thierry Henry pour constituer une équipe olympique pour les JO de Paris avec des joueurs de plus de 23 ans, nous allons aider Thierry Henry. Initiative de l'équipe du soir et une information de Virginie Saint-Cilly. Virginie qui concerne Karim Benzema donc.
Oui, je lui ai envoyé un message tout simplement parce qu'on échange de temps en temps. Je me suis dit pourquoi pas lui, c'est le dernier Ballon d'Or français. Il est encore en activité. Donc voilà, pourquoi ne pas penser à lui. Je lui ai demandé si ça lui plairait. Il m'a répondu oui, pourquoi pas. Bien sûr, ça peut être top. En précisant évidemment que la décision ne lui revenait pas puisque cette décision revient au sélectionneur Thierry Henry. En tout cas, lui, il est ouvert à l'idée et il laisse la porte ouverte.
Karim Benzema est ouvert à l'idée. Karim Benzema ouvert à l'idée, on trouve la porte, ça pourrait être top. Thierry Henry doit-il foncer à cette question? De chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et on y va. C'est un Nicolas Georgerot qui se dresse sur ses petites pattes arrière, qui a répondu oui, attention, le bouclier humain est là. Face à vous, Régis Testelin, l'incroyable, qui répond non, Thierry Henry doit-il foncer? Oui, Nicolas, conseil de Nicolas à Thierry, on vous écoute.
Parce que s'il y a bien un sujet où c'est la bouteille à l'encre depuis un moment, c'est celui-là, ça va encore durer. Le rassemblement là à Clairefontaine, on y est depuis 2 jours, ça occupe tous les esprits, on ne fait parler que de ça. Et si on se place du point de vue de Thierry Henry, que tu aies un joueur qui envie de venir alors que toi tu sais même pas sur qui tu vas pouvoir compter sans doute jusqu'au dernier moment, moi je vois pas de raison pourquoi il n'irait pas se mettre d'accord et le prendre et qu'il fasse les jeux, même si évidemment son club aura un mot à dire.
Monsieur Testola, vous dites non. Pourquoi ?
Parce que la raison, elle est très simple, c'est qu'on ne sait absolument pas dans quel état de forme est Karim Benzema, qui est actuellement blessé au dos d'ailleurs, puisqu'il n'a pas joué les trois derniers matchs, qui fait une saison très moyenne à Al-Ittihad, où il est loin de répondre aux attentes, qui a 36 ans, qui a quitté le haut niveau en quittant le Real de Madrid. Alors à la question Thierry Henry doit-il foncer ? Je réponds non, je dis que Thierry Henry doit observer, scruter, se renseigner, savoir, prendre sa décision, mais foncer surtout pas, il doit peser le pour et le contre. Et s'il y a plus de pour que de contre, il le prendra.
Ok. Prudence, plutôt.
Hein. Évidemment.
Prudence pour Régis Testelin. Oui, pour Nicolas Georgerot, on fonce. Sur l'âge du soir, vous pouvez aller directement sur le site L'Équipe. C'est la prudence qui prévaut pour Régis Testelin. Ou non, c'est le petit taureau dans l'arène de Nicolas Georgerot. On fonce, oui. Président, deuxième arbitrage.
C'est une perspective, en tout cas, que je trouve, moi, à la fois excitante, intéressante. J'ai envie de voir ça, d'autant que Benzema a quand même une histoire qui est extrêmement heurtée, difficile, avec des frustrations en équipe de France. Ça s'est pas toujours bien passé, ça s'est assez mal terminé au Qatar par une blessure et par une communication un peu embrouillée, par des incompréhensions. Je trouve que l'histoire est pas finie et ce serait évidemment très beau s'il était une sorte de guide. Je pense qu'il prendra le rôle en plus hyper à cœur et très bien. Il pourrait emmener ces garçons-là avec lui, j'ai aucun doute là-dessus. Donc pour toutes ces raisons, j'ai envie de voir ça. Après, je rejoins complètement Régis sur le côté, il faut pas qu'il fonce Thierry Henry, il y a aucune raison de foncer. Il est dans un championnat qui est quand même extrêmement curieux en termes de niveau, bizarre. Lui-même a fait une saison, une demi-saison qui est pas terrible, voire décevante. Il est blessé actuellement. Mais si on part du principe qu'il est capable de se conditionner, de se préparer physiquement et de se relancer pour un objectif précis, oui, ça serait assez fabuleux. Compte tenu en plus d'un dernier fait, qui est que la plupart, pour ne pas dire tous les joueurs français qui jouent à l'étranger, ne seront pas libérés par leurs employeurs.
Vous êtes président pour la première fois de l'équipe du soir, en tout cas. Vous êtes président de l'équipe du soir depuis que je présente.
J'ai pas bien compris à qui tu donnais le point.
Ouais.
Ah bah.
Aux deux.
C'est-à-dire, comme il fait thèse, antithèse, synthèse, et je recommence, forcément, des fois, t'as du mal
à. Étienne Matisse, vous avez un conseil sur les arbitrages à donner à notre président, j'ai l'impression.
Qu'est-ce que c'est que cette agressivité?
Le jaune n'est pas autorisé, il y a que le rouge.
S'il n'est pas plus long que.
Voilà, rouge. Non, présentez l'information directement à la caméra. Voilà, merci beaucoup.
Fred, Moati.
Ouais, Moati, une minute.
Si ça peut le permettre d'être un peu plus bref, non. J'accepte la
plus. Fred, tu votes pour moi puisque tu as dit qu'il ne devait pas foncer.
Je rejoins sur ce petit point, Régis.
Allez, il recommence.
Sur tout le reste, donc je suis Georges Rien.
Ok, donc c'est point pour
Georges.
Ok, Nicolas Georgerot. Son histoire avec l'équipe de France est achevée dans la compréhension, on va dire, la plus totale. Quelques images tournées par Loïc Tanzi. On était au Qatar au mois de novembre 2022, vous le voyez.
Mi-novembre,
ouais. Le 19 novembre, précisément. Merci pour le synthé. Un départ au petit matin, en catimini. Y a-t-il un truc qui plane entre Karim Benzema, les Bleus, l'équipe de France, ou juste Karim Benzema et Didier Deschamps, Guillaume Dufy? Il y a un truc qui ne s'est pas dit de toute façon. Parce que non, mais un jour, j'expliquerai peut-être pourquoi je suis parti, mais on attend toujours la réponse.
Bah, on a posé la question à Didier Deschamps aussi. Il n'a pas été beaucoup
clair.
Peut-être que dans les livres d'histoire, en quelques années, on aura le fin mot de cette histoire contrariée de Karim Benzema avec les Bleus. Mais c'est vrai que ça a été très complexe. Toute son histoire a été complexe.
Ah,
on ne va pas reparler de l'histoire judiciaire. Il a quand même été écarté lorsqu'il était mis en examen et présumé innocent. Et puis, il a été rappelé quand il a été condamné. Donc voilà, tout a été assez obscur autour de lui. Et pas uniquement de son fait, mais des gens aussi qui ont été amenés à faire des choix. Moi, je suis aussi là sur ce sujet-là, un peu comme Régis. Je trouve que ça a de la gueule comme idée, hein. c'est assez sexy, mais il ne faut pas se précipiter. Et contrairement à ce que dit Nicolas, tout le monde se passionne pour les JO. Franchement, les JO, moi, c'est un truc qui me fait kiffer, mais le foot aux JO.
J'ai pas dit que c'était parce que. Non, j'ai pas dit que ça passionne.
On s'en fout du foot aux JO.
Mais tu vois bien que là, regarde, depuis 4 mois que tu prends la conférence presse de la liste avec Deschamps, avec Henry, ouais. Toutes les questions sont là-dessus. Ça fait 2 jours.
Ouais, bah si tu poses pas ces questions, personne n'en parle.
Mais tu sais bien que même. Il y a des hiatus.
Pourquoi je dis qu'il ne doit pas foncer? Vous savez que c'est une liste à 18 joueurs.
Ouais, c'est
extrêmement réduit. Tous les postes ne sont même pas doublés. Donc des numéros 9, il y en aura 2.
Entre Olivier Giroud, qui joue avec le Milan AC, qui joue en Europe, qui joue la Coupe d'Europe,
en fin de
etc.
Contrat,
oui. Mais alors,
moi, je trouve que sur la fin de contrat d'Olivier Giroud, vous avancez un peu vite.
Giroud, il est dans l'activité, il est au cœur de jeu. Tous les week-ends, il joue contre la Juventus et l'Atalanta de Bergame.
Mais est-ce que Giroud, il va pas être un peu trop dans l'activité? Parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée, Karim Benzema. Comme d'autres mais éventuellement.
Mais qu'est-ce qu'on
justement,
fait du niveau
parce
de
que
Benzema
Régis est en train de nous expliquer Olivier Giroud. Parce Olivier Giroud, il est même pas plus jeune que Karim Benzema. Olivier
Giroud,
faire l'Euro. Moi, je considère que des joueurs qui font l'Euro, et je suis complètement d'accord avec Deschamps de ce point de vue-là, franchement, c'est ridicule de les faire enchaîner avec les Jeux Olympiques. Franchement, les joueurs se plaignent de jouer trop. Et là, maintenant, on va leur faire faire deux compétitions internationales, l'une après l'autre, pour hypothéquer leur saison suivante en championnat. On sait que les blessures vont venir. Donc, je trouve qu'il faut trouver des joueurs qui ne seront pas, justement, dans la liste de Deschamps. Je parle pour les plus de 23 ans, donc qui peuvent participer aux Jeux. Et ils sont peu nombreux. Il y en a trois, je crois.
Loris Varane, Benzema.
Mais avec des joueurs, je veux dire, pourquoi pas, par exemple, un Alexandre Lacazette.
Mais voilà.
Qui va pas aller à l'Euro, parce que ça, on en est quasiment sûr, et qui est un joueur, un attaquant aussi encore extrêmement performant. Pourquoi est-ce qu'il accompagnerait pas ces jeunes-là? Mais aller chercher un Olivier Giroud, qui va déjà avoir du mal, dont on se demande s'il est capable de faire un grand tournoi, tous les matchs en entier, et c'est déjà quasiment plus le cas.
Qui ne fera pas.
Allez pas lui faire faire les jeux derrière, ce serait ridicule.
Stéphanie. Tiens, sur Olivier Giroud, Virginie, vous avez aussi une petite indiscrétion sur l'avenir d'Olivier Giroud en club.
Petite information de The Athletic, les discussions seraient avancées avec le Los Angeles FC, qui est le club actuel d'Hugo Lloris. Donc, discussion avancée pour cet été, il est en fin de contrat avec Milan.
Ok. Sur Giroud, je vous ai entendu réagir sur Giroud, sur l'information.
Non, mais tout le monde dit et affirme qu'il est en fin de contrat. Le club milanais et lui n'ont jamais communiqué sur la durée du contrat.
Mmh. Ok.
Et très souvent, Olivier Giroud, ces derniers temps, faisait des 1 plus 1.
Mmh. Évitez de mettre les mains devant la bouche, parce
voilà,
que voilà,
c'est
parce
vrai. C'est vrai.
On n'entend pas votre joli filet de bois. Thierry Henry et Karim Benzema se sont côtoyés lorsqu'ils étaient joueurs. 19 matchs en équipe de France entre 2007 et 2009. L'un finissait quand l'autre commençait, on va dire, un peu sa carrière. J'ai aucun souvenir de leur duo, de leur cohabitation. Ils s'aiment bien.
Mais Thierry Henry, ça le tente, il y pense ou pas?
Ben, on a essayé de le joindre, mais pour l'instant, nos demandes sont restées sans nouvelles. Pour l'instant, on en est là.
Il a refusé de répondre à nos sollicitations, mais on s'est renseigné avec Hugo Guimet, parce que dès qu'on a eu l'info de Virginie, on a fait un papier dans le journal de demain avec Hugo Guimet, et on s'est renseigné. On n'a pas eu Henri directement, mais on s'est renseigné avec des gens qui sont au courant de tout ça. En fait, Benzema, il est dans une liste de 100 noms.
D'accord.
Et là, il y a 100 joueurs de plus de 23 ans actuellement en activité qui sont sélectionnable parmi les trois joueurs de plus de 23 ans. Pourquoi 100? Parce que de toute façon, par élimination avec les clubs qui vont dire non, tu vas très vite te retrouver à 15, puisque tout le monde va dire non. Donc, il a fait une liste de 100 noms. Et Benzema est dans ces 100 noms. Et Benzema, si Henri dit pas non, mais il devra cocher deux cases. La première case, c'est est-ce que Al Ittihad va le libérer, parce que Al Ittihad n'a pas plus de raison de le libérer que le Real de libérer Mbappé, surtout au prix où il est payé en Arabie Saoudite. Et la deuxième question
entre lui et son club en plus.
Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il sera bon? S'il est bon et que Al Ittihad le libère, il est dans la liste.
On va écouter Thierry Henry. C'est une conférence de presse qui a eu lieu hier. Rappelons qu'en février dernier, le Real envoyait un mail pour annoncer à la fédération qu'elle n'allait pas ou n'avait pas l'intention de libérer donc ces joueurs français du Real. Mais Thierry Henry a perdu une bataille, pas la guerre. Vous connaissez la formule. Regardez, il aimerait bien insister. C'est très court, mais c'est très intéressant.
Mais les clubs à l'étranger, c'est normal qu'au départ, il y a un peu cette. C'est même pas une réticence, c'est carrément un non. Donc voilà, oui, j'ai vu l'email. Je m'en doutais, je ne me suis jamais arrêté au premier nom en général, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais à l'arrivée, la décision reste malheureusement, pour nous bien sûr, au club.
Voilà. Dans l'idéal, lui, bon, il a le droit à 3, plus de 23. Il veut quoi comme poste? Un attaquant, alors, un milieu, un défenseur?
Non. Les souhaits confiés, et notre médecin accoucheur était Benjamin Quarez il y a 8 jours, donc du côté du Parisien, les souhaits de Thierry Henry pour les Jeux.
Offensif.
Mbappé, Grisou, Giroud. Voilà. En tout cas, voilà les souhaits.
Mais ces trois-là, il y a quand même aussi Didier Deschamps, même si c'est pas lui qui est décisionnaire. Et je pense qu'il a été quand même relativement clair en disant que pour lui, c'était pas souhaitable que les joueurs enchaînent. Pour moi non plus d'ailleurs, ça me paraît parfaitement ridicule. Donc je trouve qu'en plus, Karim Benzema, il a un atout. Celui-là, on l'a pas évoqué parce que quand on parlait de Mbappé au jeu, ça donnait aussi un lustre à la compétition football et à l'équipe de France olympique. Et Karim Benzema, c'est un ballon d'or. C'est une star internationale. Et en plus, c'est un joueur qui peut être extrêmement performant et entraîner les autres. Donc je trouve que vraiment, pour le coup, s'il est en état de le faire, et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, allez-y.
Si on réactive ce débat, c'est l'information de Virginie Saint-Cilly qui a joint Karim Benzema, les JO de Paris, ça pourrait être top, ça peut être top, nous dit Karim Benzema. Alors que les priorités de Thierry Henry étaient donc Mbappé, Grisou, Giroud, donc on a le Real qui écrit en février pour dire comptez pas sur les joueurs français. On a aujourd'hui RMC qui nous révèle que l'Atlético de Madrid souhaiterait garder Antoine Griezmann pour les JO de Paris. Ça me paraît, ça commence à être compliqué, même si Thierry Henry, lui, veut insister.
Mais franchement,
ça tourne au fiasco.
Juste un mot là-dessus, parce que si vraiment Thierry Henry, c'est trois choix, c'est Mbappé, Griezmann et Giroud, je veux dire, jamais il parle avec Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il pense une seconde que, évidemment, ça va se passer comme qu'il rigole. Non, et avec leur club aussi.
Il a le droit d'espérer, il a le droit de rêver, il a le droit de viser le plus haut, c'est normal.
Notre ami Ripoll avait été obligé de racler les fonds de tiroir.
Oui, mais c'était Tokyo 21, c'était pas en France. Et les clubs français ont pris quand même un petit peu de bois.
Quand Diallo est élu, qui commence son mandat, il affirme que oui, ce sera un des objectifs majeurs de pouvoir convaincre les clubs de les.
Mais les clubs français, il n'y a pas de problème. Les clubs français, ils vont laisser partir leurs joueurs, mais ce n'est pas des.
Il ouvrait le jeu en dehors de la France.
Non.
Et finalement, tu te retrouves quelques mois après où tu es dans cette situation où tu n'avances pas.
Je ne crois pas que le président de la Fédé en France, il pense une seule seconde qu'il a un pouvoir sur le Real Madrid.
Tu vois bien qu'il fait la démarche. À ce moment-là, tu avais une démarche assez volontaire de pouvoir essayer de peser. Dans les faits, on sait très bien que
le président de la Fédé en France. Sur les clubs français. Pour laisser partir Zaïre-Emery, Colomuani, et Ousmane Dembélé, par exemple.
Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, il n'y aura pas vraiment de problème.
D'accord.
Parce que politiquement, ce sera extrêmement compliqué pour Nasser Al Khelaifi de dire non, moi, je ne libère pas un joueur.
Alors qu'en 2021, ils avaient fait le même courriel, avant Tokyo, pour dire on ne les libérera pas, ni Neymar, ni Mbappé, etc.
Je peux me permettre
une
petite parenthèse politique.
Allons-y.
Ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que la FIFA, qui se veut promoteur du football universel, international, n'inclut pas les Jeux Olympiques comme une date FIFA. Mmh. Si tu veux promouvoir le football dans le monde entier, dans tous les continents, pourquoi tu dis les joueurs, c'est pas une date FIFA, ils vont pas aux JO. Mais c'est la meilleure publicité au monde. Sauf que comme les Jeux Olympiques,
parce que c'est le CIO,
les Jeux Olympiques sont un concurrent de la Coupe du Monde, on dit niette, on fera pas la publicité.
Et Infantino préfère une Coupe du Monde à 52 ou à 68
dans le même temps, ils sont en train de promouvoir et de créer des compétitions parallèles qui n'ont aucun intérêt.
La Coupe du Monde des clubs en 2025.
Qui sont totalement artificielles, qui sont beaucoup moins valorisées et valorisables que les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques crachent dessus.
Et c'était la fin du développement de Thierry Henry dans l'extrait que l'on a eu.
Henry, il faut que les JO passent en date FIFA.
Il dit la seule solution, c'est ça.
Mais le CIO ne se bat pas non plus parce que c'est une discipline qui ne passionne jamais les foules tous les 4 ans. Mais franchement, les stades sont vides.
Les meilleurs joueurs du monde, ça bascule tout de suite.
Alors comment tu fais concrètement? C'est-à-dire donc tu vas considérer donc les clubs donc ils vont devoir lâcher leurs joueurs pour l'Euro et 15 jours après pour les JO.
Mais moi,
tous leurs joueurs.
Moi, je supprimerai le foot aux Jeux Olympiques, moi. Donc voilà.
Bon, en tout cas, si on veut.
C'est la première fois depuis 15 ans que je fais l'équipe du soir qu'on parle des JO à l'équipe du soir.
Parce qu'en 84, t'étais pas né, peut-être.
Si, je l'ai vu cette finale. Mais si on veut en faire une date FIFA, pas
tous en même temps, Guillaume Dufy.
Et les Nigérians.
Les Super Eagles. Je pense que si on veut en faire une date FIFA, il faut arrêter de pouvoir prendre trois joueurs de plus de 23 ans. Si l'idée, c'est que toutes les sélections prennent l'équivalent de Griezmann, Mbappé, Giroud pour les mettre aux Jeux Olympiques 15 jours après l'Euro qu'ils auront fait ou la Coupe du Monde qu'ils auront fait, ça n'a pas de sens.
Moi, j'ai interprété la sortie de Thierry Henry. Il faut que les JO passent en date FIFA, ok? En fait, et c'est une demande un peu désespérée, là, c'est le dernier atout, le dernier argument qu'on jette comme ça, et qui valide l'impuissance de Thierry Henry. par rapport à ses souhaits, par rapport à avoir des joueurs de plus de 23 ans, mais qui jouent, on va dire, mais vous avez dans aussi, les clubs étrangers.
Vous avez aussi une autre solution, pour le coup, que par exemple la France n'a pas prise et que l'Espagne a prise. C'est-à-dire que dans la loi espagnole, les clubs, en tout cas les clubs espagnols, sont obligés, même si ce n'est pas une date FIFA, de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques et pour la sélection espagnole.
Ouais, mais ils sont en train de revenir dessus.
Si la France avait fait la même chose, eh ben on n'aurait pas eu ce problème-là à Tokyo avec une mascarade, une équipe de France ridicule ou qu'un club voulait laisser partir le moindre joueur là-bas. Voilà, c'est aussi des volontés politiques qui peuvent exister.
Nicolas, vous dites quoi là par rapport à l'Espagne ?
On va revenir là-dessus puisque on attend une décision du Sénat. Précisément, mais en première instance et sur un premier vote, ça a été modifié. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une obligation qui liait le joueur à la convocation d'une sélection. Un joueur sélectionné ne peut pas dire non et doit être obligatoirement convoqué, mais l'Espagne est en train d'essayer de modifier ça et c'est bien parti.
Enchaîner l'Euro, les JO, est-ce possible? Jeudi dernier, le coach Deschamps, vous l'avez rappelé d'ailleurs deux fois dans cette émission, déclarait que mentalement, c'était très, très difficile d'enchaîner.
Genre, physiquement aussi. Il
a... Mission impossible.
C'était éliminé au premier tour, non, ça passe.
Écoutez-le. Ça. Eh ben, je vais être obligé de. Jeudi dernier, donc, le coach Deschamps déclarait que mentalement et physiquement, c'était impossible d'enchaîner. Je m'intéresse à cette position de Deschamps, cette déclaration. Est-ce que c'est une déclaration, on va dire, ambiguë? Ambiguë, je vais préciser. Il souhaite toujours, dans un discours de politique générale, d'avoir et de souhaiter à Thierry Henry d'établir la meilleure équipe de France possible. Et quand il s'agit de créer des petites passerelles, il érige des critères en disant bah, « Vous savez, c'est pas facile. »
Parce qu'en septembre, je crois que c'est le début aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde, non ?
Oui.
Bon,
oui.
Bah, donc il aura besoin de mecs un peu frais, il faudra prendre des points rapidement. Il se dit que ouais, les JO, ça peut finir le 15 août. Si Mbappé, imaginons, il repart à Madrid, il pense évidemment à lui, quoi. D'abord.
Bah je pense, on peut pas dire les joueurs, et c'est n'importe quoi le football, ils jouent tout le temps, il y a trop de matchs, etc. Quand vous avez une compétition qui est disputée donc, par des moins de 23 et que les clubs vont libérer, parce que ça va être ça le cas, donc, par exemple pour les joueurs qui évoluent en France, tu vas pas me dire que tu peux pas trouver trois bons joueurs qui ont plus de 23 ans et qui font pas l'euro. Mm-hmm. Je veux dire, on a un réservoir
des
incroyable.
Bons joueurs, oui, mais des top joueurs.
Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les compétitions, les matchs de championnat, les matchs de coupe, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de grande compétition, les Jeux Olympiques, c'est toujours les mêmes joueurs qui doivent les jouer. Ouais. Les autres, ils font rien.
Il y a une chose aussi.
T'as aussi le, comment dire, t'as l'enjeu de l'image. Et que parce que c'est des jeux à la maison et que ça compte. Bon, regarde les sélectionneurs à la tête de la sélection féminine.
Tu peux trouver. La preuve, c'est que tu peux trouver.
C'est que ça joue.
Tu peux trouver par exemple un Karim Benzema qui a le talent, l'image et qui n'est plus en équipe de France et qui pourrait tout à fait faire la maille.
Oui, c'est aussi un dilemme ça qui va concerner très peu de joueurs et très peu de sélections. Hein, je vous rappelle quand même que à l'Euro, de mémoire, des équipes qui peuvent doubler. Et enchaîner sur les Jeux Olympiques avec les trois mêmes joueurs qui auront fait l'Euro avant.
Ça concerne.
T'as la France, t'as l'Espagne, je crois qu'il y a l'Allemagne.
Quoi, au JO ?
Oui.
Ils sont pas au JO.
Ah si.
L'Allemagne n'est pas au JO.
L'Allemagne n'est pas au JO ?
Non, c'est Israël-Ukraine, les équipes européennes.
Tu vois, donc Israël, bon, Israël non, c'est réglé.
Sur le fond.
Ouais, non, et l'Ukraine, c'est réglé aussi.
En tout cas, ça concerne peu de joueurs.
Sur voilà, le fond, je suis d'accord avec Deschamps.
Et puis, ben, point barre.
Jeux Olympiques, préparation en club, début de saison, c'est impossible. Après, il faut quand même savoir, Thierry Henry, il va constituer sa liste au mois de mai.
Ouais.
Mais elle est modifiable jusqu'au mois de juillet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un certain nombre de joueurs qui vont jouer beaucoup, qui vont avoir un gros temps de jeu pendant l'Euro. Mais sur les 26 joueurs de Deschamps, il va y avoir des joueurs qui vont avoir un tout petit temps de jeu. Si Olivier Giroud, il a 95 minutes de temps de jeu sur tout l'Euro, il va être frais pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui t'empêche à la fin de l'Euro, de dire à Henri, écoute, Giroud, il a très peu joué. Giroud, il est frais.
Donc,
c'est bien entraîné.
Sa prépa, elle commence quand? Donc, il vire un gamin. Tiens, t'étais 18e. Ben, Giroud carré, tu dégages.
Il a juste la liste.
Régis, quand j'ai dit que Didier Deschamps avait un propos ambigu, mais son propos aussi est nourri. Un joueur qui a deux fers au feu. Est-ce que finalement, même mentalement, le mec se dit, ouais, j'ai l'Euro, mais j'ai peut-être un peu les JO. Il n'aime pas beaucoup ça, Didier Deschamps, d'avoir pas ses joueurs sous la main comme ça, non ? Il y a quelque chose.
Il n'aime pas ça et il a bien raison de ne pas aimer ça parce qu'évidemment, psychologiquement, je pense que quand vous démarrez l'Euro, vous vous dites, ouh la vache, derrière, j'ai les Jeux Olympiques en plus et tout le monde m'attend. Par exemple, quand vous êtes Mbappé ou Griezmann, franchement, ça fait pas
Et le tournoi de foot commence avant.
Les, oui, bah oui, vrai, le 24 avant. Juillet, voilà, 10 jours après la finale de l'Euro. Les JO de Paris, ça peut être top. C'est à propos de Karim Benzema, joint par Virginie Saint-Cily, qui est donc candidat, en tout cas qui ouvre la porte à une éventuelle participation aux Jeux Olympiques. Dans le respect, évidemment, de Thierry Henry, le sélectionneur qui aura le dernier mot. Merci beaucoup, Étienne.
Ah, c'est pour moi celui-là ?
Ah, bah oui, c'est
un rouge, un jaune.
Voilà, un rouge, un jaune, c'est une belle émission.
Depuis que je m'intéresse à l'arbitrage, je reçois cher. Hein.
Allez, pause. Le Minuit Info débarque dans l'équipe du soir. Virginie Saint-Cily, on va commencer par le quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'est chez les dames, avec la performance de LOL qui prend une option pour la qualification à succès à Lisbonne face au Benfica.
Victoire 2-1, mais elles ont souffert. Elles ont été punies avant la pause sur une passe en retrait de Gilles vers Mbok. C'est récupéré par Faria qui file au but toute seule et qui remporte son duel face à la gardienne. Cascarino égalise à la 63e, servie par une talonnade de Dumornay. Elle n'a plus qu'à finir en une touche pour son premier but cette saison. Dabritz donne la victoire de la tête dans le dernier quart d'heure sur un centre millimétré d'Oran. 2-1 donc pour les Lyonnaises. Avant ce soir, les Portugaises restaient sur une série impressionnante de 17 rencontres consécutives sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues. Donc c'est une super performance des Lyonnaises ce soir.
Demain la suite, le PSG en Suède face au BK Aken. France-Allemagne, chez Léa, c'est samedi. Aujourd'hui en conf, deux internationaux, Warren Zaïre-Emery et Adrien Rabiot.
Et le milieu de la Juve, qui n'est pas fixé sur son avenir en club, n'a pas échappé aux questions mercato et puis à l'éternelle question d'un retour au PSG. Ça n'a pas l'air de faire partie de ses projets, écoutez.
Ça se comprend.
Alors, c'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été, on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur, d'une part. Voilà, ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans le football, faut fermer aucune porte. Mais ce ne sera pas ma priorité en tous les cas.
Rappelons que fin 2018, Adrien Rabiot refusait de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Paris l'avait suspendu du 22 décembre jusqu'au 24 mai. En tout et pour tout, 32 matchs manqués par Adrien Rabiot. Franchement, ce qu'on a entendu, il a plutôt été poli, Adrien. Ah,
très, ouais. Enfin, il a dit tout est possible, mais ça, à mon avis, il y a quand même peu de chances de le voir. Quoi.
Ouais, bon.
Bah, surtout, il va avoir vraiment le choix. Il est en fin de contrat. Il n'a jamais été aussi fort. Il va pouvoir signer dans le plus gros club européen, celui qui...
Quelle
veut,
manière brillante de mener sa carrière. Franchement, je trouve.
Ouais.
Je trouve.
Okay.
On a beaucoup critiqué...
Capitaine à la Juve, il n'a pas des matchs.
Ce jeune homme et son entourage, et sa maman. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait, bien mené, avec beaucoup de cohérence.
Il se bonifie, je trouve. Ouais. Comme le bon vin, je trouve. Non ?
Ok.
C'était pas un débat, c'était une petite discussion comme ça.
Sur le comeback, je suis plus à l'aise d'en parler que...
Ah, je branche là-dessus. Mais avec modération.
Bien sûr.
Je suis animateur, mais avec modération. Avec qui on veut. Le comeback d'Antoine Comboiré à Nantes, c'est le jour 1. Le coach évoque sa relation avec son N+2, Valdemar Quita.
Il était en conférence de presse ce matin avec tout le franc-parler qu'on lui connaît, évidemment. Il a confirmé qu'il ne s'entendait pas avec son président, mais qu'il fallait passer outre pour le bien du club.
Malgré bien sûr les relations qu'on a eues et puis que voilà, vous avez un fort caractère, moi j'ai un fort caractère, qu'on s'entende pas c'est une chose, le principal c'est que le FC Nantes reste en Ligue 1, donc si on pense tous les deux que, en tout cas lui parce que c'est lui qui décide, hein, que je suis l'homme de la situation, ben je suis donc bien sûr flatté et puis je suis content d'être là. Maintenant on sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 en fin de saison.
Alors que je ne m'entende pas avec le président Quita, oui, mais c'est pas le plus important. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez entendu? C'est la petite discussion du Minuit Info. Jingle. Vous êtes tous, on va dire, à peu près d'accord. Étienne, Régis et Fred. Étienne, vous avez la main, vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez entendu là? Ils s'entendent?
Totalement d'accord et totalement. Surtout, ils l'ont déjà fait. C'est-à-dire que ça s'est très bien passé pendant un assez long moment Et Comboiré a fait du très bon travail à Nantes, alors qu'il n'adressait pas la parole à Valdemar Quitta. Il faut dire que là, à côté, c'était Franck Quitta, le fils de Valdemar, avec qui Comboiré s'entend plutôt bien, avec qui
il y a la courroie de transmission un petit peu entre les deux.
Dans le vocabulaire nantais, le assez longtemps, c'est une grosse année, quoi, un an et demi.
Nicolas, vous, c'est. Oui, c'est pas un problème. Sur le court terme, la notion du court terme, c'est quoi?
C'est la fin de saison.
Fin de saison, les 8 matchs.
Quand il parle de mission commando, de sauver le club. Je pense que sur cette temporalité-là, sur cette période-là, ça marche. Maintenant, tu sais très bien que Quitta, saison prochaine, parce qu'il a toujours fait comme ça depuis 2007, qu'il reviendra, il se mêlera du sportif, et qu'en plus, Comboiré, qui est déjà passé...
C'est plus trop le cas maintenant, c'est pas si vrai que ça. Franchement, il a pris pas mal de recul, pour le coup, et c'est pas...
Il rappelle encore Gourvennec. Ouais.
Et il y a son fils, Franck Quitta, qui est vraiment, lui, extrêmement présent. Valdemar, très peu.
Je trouve que c'est quand même une preuve d'intelligence aussi de la part à la fois du président Quitta et de son fils. Mais en tout cas, Quitta, il est propriétaire, c'est son argent, c'est son club, qu'on le veuille ou non, même s'il a eu beaucoup de mal et encore aujourd'hui à être accepté par le microcosme nantais. C'est un euphémisme. Voilà. Mais c'est quand même, quand on voit l'écosystème du foot français actuellement, les présidents comme ça qui possèdent vraiment le club et qui interviennent sont pas nombreux. Et je trouve que, compte tenu de son passif avec les entraîneurs, le fait qu'il soit dit, en toute analyse, Comboiré, je vais pas avoir de prise sur lui, il m'ennuie pour pas dire autre chose, mais je pense honnêtement que c'est la meilleure personne pour maintenir le club en Ligue 1 et pour faire une opération commando avec des joueurs qu'il connaît pour la plupart et qu'il a déjà contribué à aider, je trouve de sa part, et même de la part de Comboiré aussi, mais Comboiré il peut juste vouloir retrouver un travail, de la même ce qui est légitime, mais lui c'est intelligent de sa part.
De la même façon qu'il a été demandé à Comboiré si ses rapports avec Quitta n'allaient pas nuire à la chose, on avait posé la question il y a deux jours à Quitta, mais Comboiré vous aime pas, il avait dit mais je m'en fous, il m'aime pas.
Et c'est une force,
le premier à répondre dans ce sens, c'était Quitta qui avait dit « je m'en fous ».
Après, tu sais bien, dans un club, pour essayer de se maintenir, c'est mieux quand même que toutes les planètes soient à peu près correctement alignées.
Tu as dit à court terme, oui, mais aujourd'hui, tout est court terme dans le foot.
Non, mais toi, je veux dire...
Qu'est-ce qui est moyen terme et long terme dans le foot? Il n'y a plus que du court terme. Donc, de toute façon, l'échéance, elle est à 3 mois ou 4 mois.
Tu vas repartir sur autre chose la saison prochaine.
Et puis, au milieu de saison prochaine, tu changeras comme à Lyon, comme à Marseille.
Et puis tu parles de Lyon, souvenez-vous des fameux entraîneurs que tout le monde adore, Fabio Grosso, quand il arrive à Lyon, tout le monde dit c'est formidable, il a été très respectueux, il parle déjà français, il est très respectueux avec tout le monde, il a parlé aux jardiniers, aux administratifs.
Et puis il a joué
c'est
à Lyon.
C'est un type formidable, il a joué à Lyon. Voilà, tout ça a été vraiment une espèce de parterre de roses, puis on a vu ce que ça a donné.
J'ai lu des choses intéressantes, notamment dans l'Ouest de France, je salue notre confrère David Philippot, Comboiré, un retour espéré, il connaît la maison, voilà, et tout ça, il a que des qualités, d'accord, très bien. Mais dans l'article de David Philippot, alors, le retour espéré, oui, pour certains joueurs nantais, Lafont, Chirivella et Castelletto. Non pour d'autres, enfin, ils ne sont pas anti-Comboiré, mais Sissoko, Bamba, Moutoussamy, les rapports étaient plutôt distants lors de son premier passage. Il y a un an, les rapports étaient compliqués avec son avant-centre, Mohamed Mostefa, puisque le numéro un pour lui, c'était.
C'est les premiers responsables. S'ils n'avaient pas voulu de changement d'entraîneur et garder Govenek, fallait se bouger le cul et gagner des matchs, quoi. Mais quelque part, c'est une vision un peu brutale, mais ils ne sont jamais contents. Tu leur mets un mec dur. Ah non, il est trop dur. Il n'y a pas beaucoup d'empathie, on veut un mec plus cool, plus gentil. Alors, ils ont un mec un peu plus gentil.
Trop faible.
Oh, on se fait chier, il est nul, il est trop doux. Bon. Franchement, jouer au foot, marquer des buts, gagner.
Quels que soient les rapports que peuvent avoir Quitta et Comboiré, en fait, le profil de Comboiré, c'est celui-là. C'est celui de l'opération commando, le pompier. En ça, on sait qu'il est fort. Après, on peut avoir un peu plus de réserve sur du moyen ou sur du long terme, peut-être moins un bâtisseur, même si. Il a pu aussi montrer qu'il était par moment capable de le faire. Mais à ce moment-là de la saison, à Nantes, franchement, je pense que Quitta...
Il y a un autre confrère qui lui a posé une question sur qui aurait le brassard.
Oui, il ne savait pas.
C'est le dernier de mes soucis.
Juste un truc qu'on n'a pas dit, c'est que quand il arrive en 2021, il arrive un petit peu plus tôt, il arrive en février, ils sont barragistes. Et il fait cette opération commando. Il est sauvé. Là, tu es dans un schéma où tu te répètes. Tu n'es pas dans la mesure où de faire un calque dans l'assurance que ça marche, même si tu connais le groupe, tout ça. C'est un paramètre à prendre.
J'espère qu'il finira la saison déjà.
C'est un paramètre à prendre en compte. Quand tu arrives, quand tu sais que le ressort psychologique est aussi important comme ça sur une courte période et que tu remobilises tout le monde, C'est quelque chose que...
Étienne Moati, il y a 8 matchs, il reste 8 matchs. Étienne, de la correction, vous avez dit un petit peu sévère avec Nicolas Jean-Jean, mais non, votre genre, c'est pas la rondeur. Vous êtes comme ça.
Je suis pas payé pour la rondeur. Mais...
Fallait changer, de toute façon. Fallait agir, fallait changer, fallait virer Justin Gourvennec, terminé.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Valdemar Quita avait choisi de changer. Mmh. Et pour le coup, à ce moment-là de la saison, je pense que Comboiré, c'est la meilleure solution. Si vous avez décidé de changer, si vous ne croyez plus que Jocelyn Gourvennec est capable de vous sauver. Voilà, c'est tout.
Personne ne m'a dit qu'il ne faut jamais ressortir avec son ex, ces trucs comme
c'est
ça.
C'est moi ça qui dis ça. Moi. Bon, bah, Nantes, Der Zakarian deux fois, Comboiré deux fois.
La deuxième fois, c'était 4 ans, Der Zak, ça avait plutôt bien marché. Oui, mais bon, en général, lorsqu'il y a un comeback comme ça, j'ai souvent un chroniqueur de l'équipe du Nord qui me dit.
Julien Stéphane, ça a l'air de tourner à Rennes.
C'est vrai.
Après, Quita, quand il regarde son carnet avec le numéro des entraîneurs, lui il me déteste, c'est pas possible, lui il me déteste, c'est pas possible, lui il me déteste, c'est
pas
possible.
Et puis Valdemar Quita, il a quelque chose de bien, c'est qu'il lit l'équipe. Et donc il y a une interview de Comboiré dans l'équipe, et d'ailleurs je crois qu'il l'a dit, et que ça lui a aussi un petit peu donné l'idée. Voilà. Donc les gars, lisez l'équipe, vous aurez des bonnes idées.
Le Brestois Pierre Lesmélou est le joueur du mois de février en Ligue 1. Une information déjà annoncée en début d'émission par Nicolas Georgerot. La suite avec vous, Virginie.
C'est désolé. Son tout premier trophée UNFP au milieu de terrain à 30 ans. Il fait un peu d'une pierre deux coups. Il termine devant le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang et le Lillois Jonathan David. Il a évidemment été mis à l'honneur sur les réseaux sociaux du Stade Brestois et il a pris le temps de remercier tous ses soutiens sur son compte Instagram.
Voilà quelqu'un qui fait une brillante saison, qui ne sera pas à l'Euro et qui pourrait pourquoi pas aller au JO. Il y a des mondes.
Ah bah lui, Lesmélou, tiens.
Appelons-le.
Et pourquoi pas Del Castillo aussi, tant qu'on y est. Très bon, Del Castillo.
Ok. Une nouvelle triste fin de saison pour Thibaut Courtois avec le Real qui enchaîne les galères.
Non mais Guillaume Dufy.
Pardon. Non, excusez-moi. C'est
insupportable.
Fin de saison pour Thibaut Courtois au Real. Virginie, à vous de jouer.
C'est la rechute pour le gardien. Il était de retour depuis quelques semaines après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche au mois d'août. Cette fois-ci, il souffre d'une rupture du ménisque du genou droit. Blessure contractée ce mardi à l'entraînement. Le Belge est donc contraint, de faire une croix sur le reste de sa saison et sur le prochain Euro en Allemagne avec les Diables Rouges.
Oh, il n'aura même pas fait une somme e-saison.
Ouais. Merci beaucoup, Président. Pas de cérémonie d'ouverture des JO.
C'est très moyen.
Attendez.
Moi, j'ai pris un jaune pour moins que ça.
Ah, vous réclamez un carton.
Je n'ai pas réclamé. Je faisais un constat.
Merci.
J'étais tranquille.
On tente un peu l'humour. On ne réussit pas toujours, mais on tente.
Cette journée, il y a un parloir.
Oui, mais là, pour l'instant, non. Micro coupé.
Poupoune.
Ouais, du duf. Pas de cérémonie d'ouverture des JO pour les athlètes russes et biélorusses.
Ils sont autorisés à participer à ces JO sous bannière neutre et à titre individuel, mais ils n'auront pas le droit de défiler sur la scène, non. Pas de parade pour eux. Décision prise par le Comité international olympique aujourd'hui. Autre info, en cas de résultat, leurs podiums ne seront pas comptabilisés dans le tableau général des médailles. Et en cas de titre, ce sera un hymne très court et sans parole qui sera joué. Ils sont pour l'instant 12 athlètes russes et 7 biélorusses à avoir leur ticket en poche pour la compétition.
Guillaume, vous voulez réagir? Ben non, vous êtes en taule, vous ne pouvez pas réagir. Je suis désolé, c'est comme ça. Vous êtes privé de commentaires. JO toujours, l'équipe de France de basket échappe au groupe de la mort. Il y avait un tirage au sort là, pour le tournoi olympique de basket.
Et elle a été plutôt épargnée, l'équipe de France. Elle défiera certes l'Allemagne, championne du monde, mais le reste de son groupe, le groupe B, paraît plus abordable avec le Japon et le vainqueur du tournoi de qualification olympique en Lettonie, Vincent Collet, peut souffler. On écoute le sélectionneur des Bleus.
Ce tirage au sort, c'était ce dont on allait hériter dans le chapeau 2. Et ma volonté, c'était d'éviter, bien sûr, la Serbie. Donc, à partir de ce moment-là, je suis satisfait. Et le fait qu'on ait hérité du TQO letton plutôt que de l'Australie fait aussi qu'on évite, dans le dernier chapeau, le TQO grec, à savoir la Slovénie ou la Grèce. Et ça, forcément, c'est positif. Donc, globalement, je suis satisfait.
Le TQO, le tournoi de qualification olympique. Et mes amis, on va aller donner la parole à quelqu'un qui connaît bien la grosse balle orange. C'est Christophe Denis, notre consultant basket. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir, Mémé.
On vient d'écouter le sélectionneur national, Vincent Collet. Il était plutôt, on va dire, satisfait. Est-ce que pour vous aussi, comme ça, c'est un bon tirage au sort pour les Bleus?
Plutôt favorable. Plutôt favorable. Il faut se rappeler quand même de la dernière déconvenue lors de la Coupe du Monde. Je ne suis pas certain qu'il y ait un tirage qui soit plus favorable qu'un autre. En tout cas, celui-là, il n'est pas défavorable. On vient d'entendre Vincent Collet. Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il fallait absolument éviter des équipes comme la Serbie. Ça, c'est sûr. Et que l'équipe que l'on va récupérer du TQO du côté de la Lettonie me paraît beaucoup plus abordable que les autres. Donc oui, c'est un tirage plutôt favorable.
Les derniers Jeux, qui avaient été une réussite pour les Français, qui avaient atteint la finale en 2021. La France avait dans son groupe initialement donc les États-Unis. Ce n'est pas possible aujourd'hui avec les chapeaux. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Mais est-ce que c'est un faux bon tirage? Puisque en 2021, le fait de les affronter donc au premier tour, dans ce première phase de groupe, on les retrouvait donc au plus tard en finale. Là, on peut les retrouver peut-être en quart de finale si le premier tour se passe mal.
Ouais, tout va dépendre, Mémé, du classement. Vous savez qu'il y a 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale, donc les 2 meilleures de chaque groupe et les 2 meilleures troisièmes, et que ces 8 équipes-là seront classées en un ranking, hein, de la première équipe, la plus compétitive, jusqu'à la dernière, la 8e, et que tout dépendra de votre classement qui déterminera forcément l'équipe que vous allez jouer en quart de finale. Une chose est sûre, c'est que les 2 premières équipes seront pas du même côté du tableau. Hein. Ils ne pourront se rencontrer qu'en finale. Donc, d'envisager les États-Unis en quart de finale, c'est possible, mais tout va dépendre encore une fois du classement de l'équipe de France à l'issue des matchs de poule.
Donc, tout va jouer France-Allemagne, j'ai l'impression, quoi. Non ?
Ouais, voilà. Ah. Sachant que c'est le dernier match de poule.
Ouais.
Qui aura lieu, je crois, début août, le 3, il me semble. Ce sera, oui, un match très certainement qui va déterminer la première place du groupe.
C'est ce que dit Collet, hein, faut terminer absolument premier du groupe.
Ouais, premier
c'est
du
la
groupe.
Seule façon de les éviter, ouais, sur les Américains.
L'équipe de France dames dans le groupe B, Australie, Canada, Nigeria. Il est comment ce tirage au sort? Confortable ou il y a un autre qualificatif à employer?
Un peu plus compliqué.
Ah, pourquoi ?
Un peu plus compliqué parce qu'il y a des équipes quand même comme l'Australie par exemple qui est une des top 3 équipes mondiales, ça c'est certain. Les Nigérianes qui elles sont quand même depuis quelques années commencent à être une référence sur la scène internationale. Voilà, il faudra aux Françaises à mon avis batailler peut-être un peu plus que les garçons pour pouvoir sortir de leur poule et espérer un quart de finale. Voilà, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. Et puis, c'est pas plus mal, finalement, de se retrouver, en tout cas pour les filles, hein, dans un groupe qui me paraît être un peu plus difficile que celui des garçons. Voilà, ça pourrait finalement les mettre dans une bonne dynamique et être performant tout de suite et très souvent une bonne chose sur une compétition comme les Jeux Olympiques.
C'était Christophe Denis, donc basketteur et mélomane, parce qu'on a vu une jolie platine derrière vous, à côté de vous, pour écouter de la jolie musique. Merci, on vous embrasse Christophe, merci de vos lumières. L'équipe de France de tennis, cette fois-ci, n'a pas eu la même chance pour la Coupe Davis, Virginie.
Non, on ne peut pas dire que le tirage a été clément cette fois-ci. Le groupe est relevé. Regardez, les Bleus héritent de l'Espagne de Carlos Alcaraz, de l'Australie qui l'a battu sur les 2 dernières éditions, qui les a battus, et de la République tchèque portée par de très bons jeunes comme Jiří Leica et Jakub Mencik. Les 4 pays se retrouveront à Valence du 10 au 15 septembre. La phase finale aura lieu à Malaga au mois de novembre. Mais pour cela, les Bleus devront terminer premier ou deuxième de cette poule.
Quelqu'un qui suit encore la Coupe Davis, les amis ?
Bah, moi, comme les JO et le foot, pas du tout.
Non, pas du tout, non.
Un peu, quand même,
la nouvelle mouture, là.
Un peu. On a une bonne équipe, quand même. Mais ouais. Bon, c'est vrai que la formule ne donne pas très envie.
Non. Ok. Fred, vous, c'est professionnel, vous êtes obligé.
Enfin, l'impossible, nul n'est tenu, donc non. Le moins possible.
Le moins possible, d'accord. Tiens, des nouvelles d'Arthur Cazot après son malaise hier à Miami. C'était l'ouverture du journal de Tanguy de Séville. Là, ça nous avait... On a des nouvelles, des bonnes nouvelles?
On a des bonnes nouvelles. Il va beaucoup mieux. Je rappelle qu'il a perdu connaissance hier en plein match de qualification contre Harold Mayo. Il a ensuite eu des crampes sévères. Il a dû être hospitalisé dans la nuit. Les examens ont conclu à une forte déshydratation avec une température sur le court qui avoisinait les 30 degrés quand même. Il va beaucoup mieux. Il a pu se lever ce matin. Il a été autorisé à quitter l'hôpital ce soir. Ah. Il a tweeté pour dire que son état était stable et il a donné une interview à l'équipe à lire dans le journal de demain.
Ok, d'accord. On verra. Là, c'était les images du journal de Montpellier, le régional de l'étape, là, Arthur Cazot. Hein. Qui a pris des nouvelles d'Arthur Cazot?
Impressionnante l'image. Hein.
Bah, c'est...
Oui, puis c'est à Miami, le problème, c'est pas tant la température, c'est l'humidité. Ouais. C'est monstrueux. et on se déshydrate en 5 minutes. Ça, okay. C'est terrible.
Simona Halep était de retour après sa suspension pour dopage. C'est son premier match hein, après sa suspension pour dopage. Qu'est-ce que ça a donné ?
Elle n'avait plus joué, mais depuis le 29 août 2022. Donc pour son grand retour, elle a affronté l'Espagnole Paula Badosa. Elle a démarré en fanfare en gagnant 6-1 le premier set. Et puis le match a été serré jusqu'au bout. Il a fallu une manche décisive pour les départager. Et c'est Badosa qui l'a remporté 6-3.
Et au prochain tour, elle rencontrera Sabalenka, qui est en deuil, parce que son compagnon, un ancien hockeyeur biélorusse, se serait donné la mort aujourd'hui en Floride, selon la police.
Tadej Pogacar, sans transition, a dominé la deuxième étape du Tour de Catalogne.
Et facilement, d'ailleurs, une vraie démonstration de force de la part du favori slovène, malgré des conditions compliquées. La course s'est déroulée dans le brouillard, ça ne l'a pas empêché de lancer une attaque tranchante à un peu plus de 6 km de l'arrivée, et puis de lâcher tout le monde pour aller l'emporter en solitaire. Le Français de 20 ans, Lenny Martinez, termine lui 5e, et il prend le maillot du meilleur jeune qu'il enfilera dès demain.
Voilà, depuis le début de l'équipe du soir, nous sommes traversés par cette information. Karim Benzema au JO pour tenter un peu d'aider Thierry Henry en difficulté avec les clubs étrangers de libérer les joueurs de plus de 23 ans. Virginie, vous expliquez un peu votre journée, ce qui s'est passé ?
Tout est parti d'une discussion, un échange par SMS où je prenais quelques nouvelles. Moi, j'aimerais bien, à titre personnel, le voir représenter la France aux Jeux Olympiques. Je lui ai demandé, est-ce que c'est une idée qui lui plairait ? Voilà, je lui ai simplement posé la question. Il m'a répondu, pourquoi pas ? Bien sûr, ça peut être top. Il a précisé que la décision ne lui revenait pas. On sait très bien qu'elle revient à Thierry Henry, le sélectionneur. Mais lui, il est ouvert à l'idée et c'est visiblement quelque chose qui lui plairait.
Le sondage du soir, Benzema au JO, ça vous plairait ? Alors, on a lancé ce sondage juste au début de l'émission. On regarde le résultat, 81% non à 19%. Ça déplaît à nos téléspectateurs qui sont allés sur le site L'Équipe. Il est clivant Benzema ou alors c'est des raisons, ouais, c'est des raisons de Régis en disant depuis qu'il est là à Al-Ittihad, bah, il a disparu des écrans radars, il a fini avec le très haut niveau.
Non, ça va au-delà de son état de forme présumé du moment, je pense.
C'est un repoussoir.
C'est un repoussoir.
Les gens veulent pas.
Il est clivant, il a un problème avec... Enfin, un problème entre lui et l'équipe de France a été identifié par pas mal de monde, visiblement, et ça se retrouve un petit peu dans ce sondage. Enfin, en tous les cas, c'est mon analyse.
Mmh. C'est surprenant quand même, non ?
Non.
Pas si surprenant que ça pour vous ?
Pas tant que ça.
99.
Il a toujours été clivant. Alors, quand il y a eu la période où il est devenu le meilleur joueur du monde, et il y a eu un plaisir de le voir revenir en équipe de France. Et pour le coup, la cote était redevenue favorable. Mais vu comment ça s'est terminé, et c'est vrai que la communication de Benzema, on peut... pas forcément très bien la comprendre. En tout cas, le grand public a pas compris. Et lui a l'air de considérer que Benzema n'a pas fait tous les efforts et qu'il, entre guillemets, un peu, c'est pas bien conduit en partant. Donc, je pense que ça explique aussi ça.
Après, s'il était l'avant-centre du Real de Madrid aujourd'hui et qu'il était en quart de finale de la Ligue des Champions, les chiffres seraient différents. Mais il est plus visible. Donc, à partir du moment où il est plus visible et qu'en plus il est clivant, bah, ça fait ce résultat-là.
On tourne vite la page quand même, hein, non?
Mais non, mais il est parti en Arabie Saoudite. Non, mais... Alors, on a beau m'expliquer, certains essayent d'expliquer, de nous convaincre que c'est un championnat formidable, avec un niveau de jeu formidable. Il suffit d'aller sur une chaîne française qui a conquis et acheté les droits.
Canal.
Pour s'apercevoir que...
Bah, puisqu'on est en train d'essayer d'aider Thierry Henry à faire sa liste, il y en a un qui est en Arabie Saoudite.
Kanté aussi.
C'est N'Golo Kanté, qui est... pas loin, en tout cas en termes de niveau, de pouvoir être dans la liste de Deschamps. A priori, si j'en crois nos suiveurs de l'équipe de France, il n'a pas trop de chance d'y être. Mmh. Pourquoi pas les Jeux pour lui aussi. Mmh. Pour le coup, c'est vraiment lui, pas un personnage clivant, et vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer.
Oui, mais quand tout à l'heure on a fait la démonstration et qu'on parlait de Benzema et de son, effectivement, son présumé niveau, parce qu'il y a eu quelques pépins physiques, N'Golo Kanté, quand même, ces derniers mois, ça n'a pas été...
Non, mais il enchaîne les matchs.
Non, c'est pas vrai. Ceux qui suivent... Bah, considère plutôt, j'avoue que j'ai pas trop vu les matchs de son équipe, je vais pas juger personnellement, mais que c'est plutôt pas mal. Il est revenu à un bon niveau pour qu'on puisse en débattre, savoir s'il devait ou pas être rappelé par Deschamps, c'est qu'il est revenu à un bon niveau.
Mais tu as raison quand tu parles de l'impact et notamment de comment ça s'est fini au Qatar.
Ouais.
Tu reprends un petit peu le calendrier. Enfin, t'es à 3 jours du premier match des Bleus, il se passe ce qui se passe. Mmh. Et derrière, tu as le parcours de l'équipe de France jusqu'en finale. Et le jour où les Bleus rentrent, ils l'annoncent. Enfin, on était dans l'avion et il y en avait quelques-uns qui avaient le Wi-Fi dans l'avion. C'est comme ça qu'on le sait, alors qu'on avait 6 heures de vol et qu'on l'a découvert notamment en atterrissant. On le sait un petit peu avant et on le voit. Et, on voit en fait, tout ça, ça brûle le message.
L'annonce de sa carrière interne.
Ouais, l'arrêt de... Et donc ça, en fait, je pense que
comme tu dis, le grand public, quand tu vois le parcours des Bleus jusqu'à la finale qui n'est pas là et qu'il y a tout ce que d'ailleurs je m'expliquerai, je dirai les raisons et que finalement il n'y a rien, tout ça, ça a brouillé le message.
Ok. Non, le feuilleton évidemment continue. La réponse sera peut-être celle d'Henri jeudi, à la veille du match international des Bleuets. Il sera interrogé, soit lui ouvre la porte, soit il repousse la demande.
Il a Hugo Guillemet et Régis Testelin face à lui, donc il ne fera pas le malin, Thierry Henry.
Okay, n'oubliez pas que Giovanni Castaldi aussi. L'un de vos poulains. L'un de vos poulains, mon cher Étienne.
Si en plus il y a.
Éleveur de champions. Grisou forfait pour les matchs contre l'Allemagne et le Chili. Son absence libère donc un peu mécaniquement une place au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery a-t-il une carte à jouer sur ce rassemblement, hein, je précise. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je crois qu'il y a rematch. Jingle. Rematch, revanche entre Nicolas Georgiou et Régis Testelin. Warren Zaïre-Emery a-t-il une carte à jouer sur ce rassemblement? Oui pour Nicolas, non pour Régis. On prend les mêmes et on recommence. Vous commencez, mon cher Nicolas.
Bah oui, parce que même s'il a une place quasi assurée à l'Euro avec ce qu'il fait à la fois en club et ce qu'il a pu montrer au mois de novembre, moi, avec l'absence de Griezmann, j'ai envie de le voir justement dans ce rôle. Lorsqu'on a pu voir au PSG cette saison, il est plus lucide au bout de ses efforts quand il est proche de la surface, il résiste mieux dans les duels et je trouve qu'il peut apporter quelque chose. Et moi, je trouve que sur ces deux matchs-là, bah, au milieu de terrain, il y a match et j'ai envie de voir bousculer, titiller la hiérarchie.
Ok, 30 secondes pour dire non. Enfin, en tout cas, quelles sont vos raisons?
Ma raison, c'est que la première, c'est que Warren Zaïre-Emery n'a pas besoin de l'absence de Griezmann pour avoir une carte à jouer en équipe de France, parce qu'il la joue à chaque rassemblement. Et ça voudrait dire, cette question voudrait dire que l'absence de Griezmann libérerait une place ou un espoir de place pour Zaïre-Emery, mais l'absence de Griezmann, elle est ponctuelle, c'est une mini-parenthèse de deux matchs qui n'ouvre rien à personne. Griezmann n'est pas là, ça fait 7 ans que ça lui était pas arrivé, il va revenir la prochaine fois et Griezmann va se rasseoir dans son fauteuil tranquillement, sans que Zaïre-Emery ne puisse le mettre en danger. Enfin, ça me paraît évident.
Ok, mes amis, c'est un non pour Régis, c'est un oui pour Nicolas. Sur le site L'Équipe,
vous pouvez... Une manière de dire que la question était un peu stupide.
Je n'ai pas très bien compris le sens de cette question.
Mais ne vous inquiétez pas. Étienne Moiti, non plus.
Je pense que j'avais fait la même remarque.
Étienne Moiti, dans quelques minutes, vous allez devoir répondre au sélectionneur national Didier Deschamps. Nous avons une interview, évidemment.
Exclusive.
Tranché, mon cher président. Mais alors, avec en plaisir. Toute sérénité, sur cette question extrêmement bien posée. Guillaume, vous êtes à la limite du deuxième jour. Alors, Poupoune, s'il vous plaît, président.
C'est rouge, d'ailleurs.
Non, mais il n'y a qu'un rouge par émission. Vous êtes président, pas dictateur.
Ah non, mais de toute façon, c'était pour vous. Ah oui, je ne comptais absolument pas. Je peux peut-être vous donner un rouge à vous, d'ailleurs. Non.
Il a pris la confiance.
La faute de Kéa! La faute de Kéa!
Testons! Qu'est-ce qu'il disait des arbitres?
L'erreur de débutant!
La faute de Kéa, voilà, la faute de jeunesse. Simplement, oui. Petite chose, hier, Didier Deschamps évoquait l'équipe de France sans Griezmann, un véritable casse-tête pour notre sélectionneur national. Pour ces deux matchs, cette fenêtre internationale, c'est ce qui nous intéresse, l'Allemagne et le Chili. Écoutez votre sélectionneur national, Étienne Moiti.
C'est sûr.
Avec les qualités d'Antoine dans son registre, on ne pourra pas trouver un joueur qui a ces caractéristiques-là. En remplacement poste pour poste, j'aime pas ce mot-là, impossible, mais bon, c'est dit très 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 difficile à trouver. Donc on aménagera un petit peu différemment.
Voilà, dans quel système va jouer Didier Deschamps donc contre l'Allemagne et le Chili. Voilà, c'est juste une question qui est ponctuelle, temporelle. Il n'y a pas de.
Zaïre-Emery à voir avec le système dans lequel va jouer l'équipe de France.
Griezmann milieu de terrain, ça libère une place. Soit Didier Deschamps donc met un milieu à deux, soit c'est un milieu à trois. Voilà.
C'est à peu près redondant parce que certains ont déjà fait perdre pas mal de temps à l'émission. Donc je vais m'exprimer de manière extrêmement courte en disant juste que Régis a parfaitement résumé la situation. Zaïre-Emery, il a sa place dans le groupe des 23, il ne prendra pas celle de Griezmann.
Donc vous foutez des matchs Allemagne-Chili. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'animation.
Par rapport à Camavinga, tu le mets où, par exemple?
Camavinga, pour l'instant, il est plutôt sur le banc. Donc, il restera sur le banc avec Camavinga, puisque le milieu Et c'est vrai qu'on a un sentiment qu'il est installé pour le début de l'Euro. Évidemment, s'il n'y a pas de blessure ou de catastrophe de niveau de l'un ou de l'autre, avec Tchouaméni, avec Rabiot et avec Antoine Griezmann. Donc voilà, je pense que l'équipe, elle est faite un peu quand même.
Non, mais que l'équipe soit faite, certes, oui. Mais il y a deux
matchs à jouer. Et les remplaçants,
on va pas jouer à 10 des champs.
Non, mais les remplaçants sont désignés. Donc il va faire, et je l'espère, un très bon match Zaïre Emery. Il a fait une très bonne entrée quand il est arrivé en équipe de France avant de se blesser. Mais je pense pas qu'il va remettre en question la hiérarchie immédiate. Mais
bon, oui, toi, disons qu'il ne joue pas une énorme connaissance de toutes les grandes compétitions disputées par les Bleus durant le règne de Didier Deschamps. Souvent, lors de ces compétitions, il y a un type qui sort du banc et qui s'installe, ou il y a un changement de système un peu plus défensif. Bon, je sais pas, peut-être que dans ce milieu à 3, peut-être que 3 à vocation un peu plus défensive, il pourrait y en avoir un quatrième sur des gros matchs contre l'Allemagne, en Allemagne par exemple, et avoir un Zaïre Emery un peu plus haut à droite ou à gauche. C'est possible avec Deschamps.
Le match unique 2018.
Voilà. Vous savez qu'il est important celui-ci pour Didier Deschamps et dans l'esprit de Didier Deschamps.
C'est vrai qu'il y a plus la place de premier remplaçant du milieu de terrain à attribuer. Et que ce petit match-là, il peut le faire avec Fofana, avec un ou deux autres.
Comment va s'animer l'équipe de France en l'absence de Griezmann, ça ne vous intéresse pas du tout, ça,
si.
Sur ces deux matchs.
Le coup de la carte... Bien sûr que la carte, elle n'est pas immense, la carte qu'il va jouer, parce que de toute façon, vu ce qu'il a déjà prouvé à la fois avec les Bleus, les petites expériences qu'il a avec les Bleus, c'est toujours très bien passé.
Bah, c'est un bout de match.
Oui, mais c'est un bout de match, mais je trouve ça a tellement été marquant, parce que but, blessure, et puis voilà. Et là, le fait qu'il soit revenu, et la maturité dont il fait preuve, qui est absolument époustouflant, je trouve, pour un gamin qui vient d'avoir 18 ans.
Un homme, c'est un homme maintenant, il a été dit.
Oui, il l'a dit. Je suis un homme maintenant. Mais je trouve qu'il a vraiment à la fois une maturité, une lucidité, une intelligence qui, en tout cas, qui transparaît. Et puis, sa position sur le terrain, sa polyvalence, le fait qu'il ne pose pas une question à Luis Enrique, il se met latéral droit, il rend service. Il rend très bien service. Il rend tout aussi bien service quand il est un peu plus bas sur le terrain, au milieu de terrain, et un peu plus haut aussi. Enfin, à chaque fois, on a l'impression qu'il peut s'adapter à tout.
J'ai l'impression, quand vous parlez, le piano, il a un chrono.
Non, c'est pas ça. C'est lui, mais il me cherche. Il sait que j'ai un mauvais fond, et donc il vient le chercher. Et après, qui prend les cartons, c'est Vivi.
Étienne, les cartons, il y en aura pour tout le monde. Oui, Régis, juste avant de conclure.
J'avais compris cette question. A-t-il une carte à jouer? Ça veut dire, a-t-il une chance de devenir titulaire?
Non,
Étienne l'a comprise comme moi. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Fred.
Pas moi, en tout cas, j'avais bien... La question était parfaite.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Fred, si Zaïre Emery a une place à prendre dans cette équipe, eh ben je le verrais bien au poste d'arrière-droit. Parce que à Paris, il apporte énormément de garanties au poste d'arrière-droit, et beaucoup plus que Jonathan.
Et que Jules Koundé.
Franchement, ralentir l'émission pour rajouter ça.
Allez, la pause dans quelques minutes. Mbappé contre Manchester United. Mbappé contre Manchester United. On vous explique tout juste après la pause.
Écoutez, hein.
Mes amis, c'est déjà un peu demain. Nous allons aller consulter le journal L'Équipe. Quelle est la une demain du journal, Virginie? La réponse.
On a du Didier Deschamps tout puissant qui n'a jamais eu autant de pouvoir à la tête des Bleus. Le sélectionneur, surtout après sa récente passe d'armes avec le directeur technique Hubert Fournier, directeur technique national. On a du Karim Benzema, candidat au JO. On a les Russes et les Biélorusses qui sont privés de cérémonie d'ouverture. Et on a l'OL qui fait la bonne affaire chez les filles. Les Lyonnaises ont battu Benfica au quart de finale aller de Ligue des Champions féminine, 2-1.
Mbappé contre Manchester United. C'est pas si malin d'acheter Mbappé. La phrase du jour a été prononcée par Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, co-actionnaire de Manchester United depuis quelques semaines et propriétaire de l'OGC Nice. Confidence de Jim Ratcliffe au podcast de Guérin Thomas, coureur de l'équipe Ineos et donc détenu par Jim Ratcliffe. Quand un salarié interviewe son patron, ça donne ça.
United sign Mbappé. Manchester United signe Mbappé ou Ineos signe Pogacar?
Ce que je ferais plutôt, c'est trouver le prochain Mbappé, plutôt que dépenser une fortune en essayant d'acheter le succès. Ce ne serait pas très malin d'acheter Mbappé, non, tout le monde pourrait l'imaginer. Ce qui serait encore plus stimulant, c'est trouver le prochain Mbappé, le prochain Bellingham ou le prochain Roy Keane.
Donc, non, c'est pas très malin d'acheter Mbappé, le futur, oui. La sortie de Jim
Qu'est-ce
Radcliffe.
Qu'est-ce que tu
sous-entends ? Rien. La sortie de Jim Radcliffe est-elle incompréhensible ? Alors, qui comprend cette sortie ?
C'est con de l'acheter quand il est libre, déjà.
Ok. Ouais. Peut-être que Radcliffe n'avait pas l'information qu'en fait, il est en fin de contrat, Mbappé. Donc,
y a même pas non, de c'est ballot, c'est vrai, de donner de l'argent quand c'est gratuit. Non, mais,
le Real va débourser 120 millions oui, comme bonus. C'est pas, c'est pas 120 millions, c'est l'un des plus chers prix en transfert.
Ça n'a vu de puissance. À Manchester, ils ont mis presque autant pour prendre Maguire. Donc, ouais.
C'est pas si malin d'acheter Mbappé qui peut m'expliquer.
Ce qu'il semble vouloir dire, c'est qu'il vaut mieux trouver le prochain Mbappé, former le prochain Mbappé.
Oui, d'accord, mais j'ai compris.
Oui, c'est tout.
Le PSG aussi disait qu'il voulait trouver le Mbappé.
Et franchement, c'est une phrase toute faite de totalement stupide. Je veux dire, quand vous dirigez des clubs du niveau du Paris Saint-Germain, qui a aujourd'hui Mbappé, du Real qui devrait l'avoir, et de Manchester United qui rêverait de l'avoir. Et évidemment, tout le monde voudrait avoir un phénomène qui arriverait à 18 ans, que vous avez formé, que vous avez été trouvé, et qui soit le meilleur joueur du monde. Mais enfin, ça arrive assez rarement. Et la réalité, c'est que vous faites des transferts, et celui qui est en train de faire le Real, qui n'est même pas un transfert, puisque Mbappé est libre, eh ben, c'est une super affaire.
Si notre ami Dineos avait été dans la course, si Mbappé avait laissé fuiter que Manchester United pouvait être l'une de ses prochaines destinations, je ne suis pas persuadé qu'il aurait tenu ce genre de phrase. Pour lui, c'est facile, il n'est pas dans la course.
Ça montre le déclassement de Manchester United un peu aussi, dans l'attrait.
C'est certain.
Ça montre aussi le manque d'expérience de Radcliffe dans le football aussi.
Oui, aussi, mais ça rappelle aussi l'histoire de Manchester. Parce que la grande équipe de Manchester... Au départ, c'est les Busby Babes, c'est que des joueurs qui sont formés au club. Ouais. Et puis, la deuxième très grande équipe, c'est 99, avec les Scholes, avec les Beckham, Nicky Butt, les frères Neville. C'est aussi que des joueurs formés au club. Ouais. Et Beckham est une superstar. Et c'est vrai que là, c'est la seule explication que je vois, dans l'esprit de Radcliffe, c'est mieux d'avoir un garçon comme Beckham, qui ensuite s'exprime complètement au niveau mondial, que d'aller chercher pas mal de joueurs récents de Manchester qui ont coûté très cher et qui malheureusement n'ont pas délivré sur le terrain.
La plus grande star de Manchester, c'est Cantona et ils l'ont acheté. Hein.
Bien sûr, mais ça c'était il y a 30 ans.
Voilà les joueurs formés et à Manchester United cette saison, McTominay, Rashford, Garnacho et Maignan qui ont marqué également. Je préfère trouver le prochain Mbappé plutôt que de dépenser une fortune pour acheter le succès. Cette phrase de Jim Radcliffe m'a rappelé, je crois que c'est vous qui l'aviez accouché en 2011, Nasser Al Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est vous ou pas.
Vous l'avez entendu.
En 2011, on ne veut pas acheter Messi. On veut former le nouveau Messi. Ouais. Faire du PSG un club fort, ce n'est pas seulement acheter des joueurs, c'est aussi s'appuyer sur le centre de formation. Trouver le nouveau Messi, c'est l'un de mes rêves, nous a dit Nasser Al Khelaïfi, ou nous disait en 2011. C'est un discours avec beaucoup de candeur qu'on sait ce qui s'est passé après ce qui est advenu.
C'est le discours que fait chaque président d'un club, d'un grand club, quand il arrive. C'est-à-dire, il pense qu'il est malin en disant ça et que, évidemment, il va faire mieux que tout le monde et va trouver la pépite, je ne sais où. La vérité, c'est que ça arrive quasiment jamais. Donc, vous faites comme les autres. Vous faites des transferts et vous essayez de vous tromper le moins possible. Manchester United, c'est peut-être pour ça qu'il dit ça, s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trompé ces dernières années.
Qui a parlé de déclassement de Manchester United, en fait ?
Fred.
Oui, parce qu'on voit maintenant que Manchester n'est quasiment plus dans la course. Quand il s'agit d'attirer un très grand joueur, un très bon joueur, c'est très rarement Manchester qui est choisi, malheureusement. Et ça, Radcliffe l'a peut-être aussi intégré.
OK. Mes amis, on va jouer ?
Ah, bah oui.
Quel est Joker ? Ah,
c'est moi.
C'est Régis. Oh là là là. C'est Nicolas Georgiou.
Guillaume, regarde cette insulte. Moins un, ils nous ont mis.
Vous parlez italien, là ? Vous êtes comment, l'italien ? Puisque c'est l'anniversaire d'Alessandro Nesta, 48 ans aujourd'hui, le thème du soir, c'est « Je suis champion du monde en 2006 ».
Oh là là là.
Aïe, là, je vois des têtes de perdants.
Ouais.
Alessandro Nesta, 48 ans aujourd'hui, je suis champion du monde en 2006. Attention, premier joueur à découvrir, champion du monde italien, je suis formé à Brescia.
Costa Curta.
Pirlo.
Costa Curta. Costa Curta, je ne sais plus s'il jouait en 2006. Hein. Pirlo, c'est 4 points pour le président Verbier. Attention, je suis champion du monde 2006 et j'ai également joué la finale de l'Euro 2000 pour 4 points. Un peu téméraire de répondre.
Del Piero.
Del Piero, c'est 4 points supplémentaires pour Frédéric Verdier. Fred, vous allez prendre un RTT. Gentiment, ouais. C'est ce que vous conseille votre DRH, Nicolas Georgerot. Voilà, un petit RTT, vous êtes éliminé simplement pour la prochaine question.
Il a essayé de vous mettre un rouge, Olivier. C'est bien. Vous le faites noyer.
Voilà. J'ai pris... Comment c'est le jeu? Je vous en supplie. J'ai pris ma retraite l'été dernier.
Bouffon.
Oh là, il... Bouffon. Essayez de gardien. 4 points pour Guillaume Dufy. Ouais. Bravo. Excellente réaction de l'incroyable Guillaume Dufy. Excellente. J'ai marqué un seul but lors du mondial 2006 contre l'Australie.
Ah non. Grosso.
Alors, Grosso non. Materazzi non. J'ai surtout délivré 4 passes décisives dans ce tournoi 2006.
Totti.
Francesco Totti. 3 points pour Étienne Moati qui ouvre son compteur. Attention, la hyène vient de se redresser sur ses petites pattes arrière. Le gars est injouable.
Les mecs en veste en jean, ils sont où?
Lors de la finale, j'entre en jeu à la place de Totti. Pourtant, je suis milieu de terrain.
De Rossi.
Daniele De Rossi. 3 points pour Régis Testelin. On regarde les scores. C'est assez équilibré. Ouais. Le petit Breton a les jokers, ouais. Mais maintenant, il faut marquer des points, mon petit Breton, s'il vous plaît. Lors du Mondial 2006, j'évolue à la Fiorentina. Un indice sur son club. Fiorentina, OK. Vous avez un nom à nous proposer, Régis Testelin?
Ah, je...
Grosso.
Grosso, c'est une mauvaise réponse. J'ai joué dans 12 autres clubs italiens, mais aussi un grand club allemand.
Tony.
Luca Tony, 3 points supplémentaires pour le président Fred Verdier. Attention, ça va être rapide. J'ai marqué le tir au but vainqueur.
Grosso.
Grosso, 4 points. Fabio, Grosso.
Ah, j'ai confondu avec l'autre. C'est moi le premier qui l'ai dit. Bon, t'as dit Bouffon, c'est bien déjà.
Après le mondial, je quitte la Juve pour le Real Madrid. 2006.
Cannavaro.
Cannavaro, 4 points pour Guillaume Dufy. Ça enchaîne, hein, 4
Peut-être
points.
Peut-être une remontada.
Non.
Ah.
Nous sommes à 2 réponses du but. Je regarde. Vous pouvez éventuellement.
Tu peux le faire.
Mmh. Ouais.
Je suis passé par la Juve, le Barça et le Milan AC. C'est un peu plus dur là. Juve, Barça, Milan pour 4 points. Est-ce que quelqu'un tente? Guillaume, vous pouvez peut-être accrocher le président. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout?
Reina.
Comment? Pépé Reina?
Ouais.
C'est quoi?
Il va essayer. C'est un gardien. Voilà. Alors,
en fait, c'est un gardien. Il n'y a que des gardiens.
C'est un gardien.
Il un carreau et un A. Un carreau et un A.
Mais oui, il a tenté.
On peut flouter Guillaume, mais il a honte. Là, il a honte, mais il se cache. Ah, regardez, il se cache.
C'est Reina.
Là, ça devient
Reina.
Reina. Je suis passé par la Juve, le Barça et le Milan. Je suis arrière latéral.
Camoranesi.
Camoranesi, non, c'est une mauvaise réponse. Mon prénom en français est Jean-Luc.
Gianluca.
Gianluca.
Ah oui.
Gianluca. Mon nom de famille commence par un Z.
En même temps, les deux en même temps.
J'ai dit le premier.
Étienne. Les deux Étienne. En même temps. On dirait Étienne. Étienne. Allez, un point pour Étienne.
Pas sûr de l'avoir très bien prononcé, mais.
Refaites-le-moi.
Mais Zambrotta.
Oh, Zambrotta. Allez, la dernière pour la route. Lors de la finale, je concède un penalty.
Materazzi.
Ah
oui.
Ben ouais. Ouais. Marco. Materazzi. On regarde les chiffres. Italien première langue, c'est vraiment le président.
Dans mon village, on disait Fanny au comptoir.
Fanny au bar. Fanny au bar.
Avec plaisir.
Même sans fourcher.
Ce qui n'est pas petit.
Je viens d'avoir un texto de Grégory Schneider, il va s'inviter aussi. Je suis désolé. Voilà, c'est comme ça.
Bravo Fred, du grand verre.
Bravo, bravo. Du grand président, du grand verre.
Concis,
vraiment, moi j'ai interdit. C'est vraiment cette obsession du
rythme. On me dit que Reina a la double nationalité.
Ah, un beau dénouement.
Il n'y avait pas d'oreillette.
La face,
merci.
Elle est là, pas d'oreillette. On vous embrasse et à demain. La maison est toute verte. Allez, à demain.
self-creation.